Bon. Amis trésistes, bonsoir. Nous voilà ce soir à Saint-Cyprien, face au port. On n'a pas la vue sur les bateaux, mais tant pis. On est au premier étage du casino de Saint-Cyprien. Et ce soir, évidemment, le gratin du rugby à 13 départemental, pour ainsi dire. Et surtout que là, ce soir, on peut vraiment employer le mot gratin, le terme gratin, parce qu'on a quand même des champions de France autour de la table. Ça, c'est une première pour cette année, puisqu'on a le bonheur et l'honneur, je dirais, d'avoir les champions de France Palo-Inc, les Broncos de Palo, champions d'élite 2, et également les Maritimes du Barcarès 13, champions de National 1. Bonsoir, messieurs.
Bravo.
Alors, les représentants, il y a l'incontournable Jean-Claude Touchagas, président de Palo, voilà, qui est pas très loin, en plus ça allait bien, pour venir jusqu'à Saint-Cyprien. Et puis, en longeant la mer, eh bien, Serge Rose, le président du Barcarès 13, et Guy Campourcy, qui est entraîneur au Barcarès, je crois, depuis près de 25 ans, 20 ans.
C'est ça, 25 ans.
Le temps passe, hein, le temps passe.
À ses côtés, ils sont venus en bateau.
Ils sont venus en bateau, à la rame, bateau à la rame. Non, ils ont moteur avec. Très bien. À ses côtés à gauche, Louis Bonnery, le président de la Ligue Languedoc-Roussillon. Ça n'a pas changé entre-temps. Pierre Vergès, qui est de retour après une longue période d'inactivité, de travail. De travail, il nous dit, mais on ne le croit pas. On ne sait pas où c'est qu'il était, mais il n'était pas là. Qui est cette fois-ci bien détaché au camp des Dragons pour cet été, on est bien d'accord.
Absolument.
Absolument. Jean-Marie Bousquet, fidèle serviteur du rugby à 13 et donc président de la Peña de Saint-Cyprien, il joue ce soir à domicile. Et Alain Forge qui nous revient tout droit de Castleford avec les Roosters, la jeune équipe française là qui est en train bien de... qui est griffée par le titre. Mais bon, et qui s'occupe évidemment des Roosters et des Dragons catalans exactement. Et puis Olivier Gondran, le président des Dragons de la Tête, qui est toujours présent. Et notre ami Zoulou, qui est là pour la... Christian, qui est là pour la technique. Alors on va commencer bien différemment ce soir, on fera un peu différemment, puisqu'on a donc cet honneur de recevoir des champions de France. Donc Palo champion, le Barcarès champion. On s'y attendait quelque part un petit peu, parce qu'ils ont fait une saison plutôt sympathique. Une fin de saison surtout, plutôt sympathique du côté de Palo. Jean-Claude, Palo champion, donc c'était évident pour toi ou pas ?
Non, pas du tout. On a bousculé les pronostics parce que tout le monde donnait favori des équipes comme Montpellier et Bao. Bon, Montpellier a été au rendez-vous. Et puis Palo aussi. Bon, je pense qu'on a été en forme au bon moment parce que la saison a été difficile à vivre. On était avec des hauts, avec des bas. On a eu quelques matchs. On était capable de gagner contre le meilleur et de perdre contre le plus mauvais. Mais bon, les garçons ont été présents au grand rendez-vous. Et je pense que l'histoire retiendra que la victoire finale.
Et tous autour de cette table, je pense, on a pu voir cette finale entre Palo et Montpellier qui était extraordinaire et qui a tenu le public en haleine parce qu'il y avait un suspense assez important. On pensait que Montpellier allait se refaire la cerise sur la fin. Finalement, c'est Palo qui a enfoncé le clou. Olivier, tu étais aussi ?
Ah ben écoute, moi, on parlera du Barcarès après, mais cette finale Palo-Montpellier, il y a longtemps que je n'avais pas vibré comme ça dans les stades de 13 ans.
Ouais, c'est vrai.
Et on se posait la question, j'étais avec les collègues d'IE sur tête et on se demandait, mais qui c'est les Dragons qui jouent ? Non, mais c'est vrai, ça nous a fait plaisir. Il y a eu un gros match, il y a eu de l'engagement. On a vu deux équipes qui avaient envie de jouer au rugby. Il n'y a pas eu de mauvais gestes. Et pourtant, Dieu sait que les cartons ont été sévères. Du monde au stade, comme il y a peut-être 20 ans que je n'avais plus vu à Saint-Estève. Ouais. Et ça a été un grand, grand plaisir de voir cette finale dans un stade plein avec deux belles équipes sur le terrain. Ouais.
Pierre Vergès.
Mais oui, qu'est-ce qu'on peut dire après ce qu'a dit Olivier ? Il vient de me couper trop L'herbe de Saint-Estève sous le pied. Mais bon. Effectivement, quelque chose qui est extrêmement rassurant pour le rugby à 13. Et puis surtout, opposition de style, opposition de ville aussi.
Ouais.
Parce que bon, Palo, que je connais un peu quand même, mais avec ses qualités, ses valeurs, parce que c'est une équipe qui a toujours eu des valeurs. Et puis Montpellier, c'est sympa de voir une équipe comme Montpellier qui est là, qui va peut-être monter. Et ça serait bien qu'elle figure bien en élite, parce qu'une ville comme Montpellier en élite 1, ça serait extrêmement intéressant. Donc, que du bonheur. Bon, moi, je regrette qu'il y ait eu l'absence des grands pontes de la fédération, qui, une fois de plus, n'était pas là. Mais bon, ça, on est habitué, quoi.
Bon, allez, c'est le premier coup de scie de la soirée. Allez, on y va.
Les pontes de la fédération ne jouent pas. Bon, le public a été satisfait. Les gens qui payent ont été contents. Et c'est le principal. Les sponsors des clubs ont été contents. Les absents ont eu tort. Bon, ça, c'est le problème qui ne nous regarde pas. Mais bon, pour dire... la performance de Palot, elle avait été déjà, disons, préparée depuis un mois. Parce que depuis un mois, l'équipe tournait, on sentait quelque chose qui bougeait dans cette équipe. Avec des garçons un peu revanchards, des garçons qui ont été jetés de clubs de national, de clubs d'élite, et qui n'ont pas eu de contrat, et puis qui sont venus à Palot, qui se sont refait une santé.
Qui, par exemple ?
Un coach comme Lionel Texido, qui quand même encore à 29 ans peut jouer à l'étage au-dessus, même à deux étages, il n'est pas démérité, comme Sébastien Amigas, comme Sofiane Madani, qui est peut-être qui est un jeune d'avenir, et puis de nombreux autres, comme Rémi Prunac, des jeunes qui ont 23-24 ans et qui sont capables de jouer à l'étage au-dessus. Bon, on a récupéré tout ça à Palot. Et la mayonnaise a bien pris cette année. Que dire de plus de cette finale que le public a répondu présent.
Ouais, exactement.
Il y a eu une très bonne organisation. Un bon match. Le temps qui n'était pas trop de la partie. Mais bon, à partir de là, un bon match de rugby à 13. Le 13 des villages, le 13 amateur. Quant à Montpellier, bon, nous... quand on est allé chez eux, on s'est fait voler par un arbitre lésignanais qui s'appelle Christophe Grandjean, pour ne pas le nommer, qui n'est pas le bienvenu à Palot, qui sera récusé toutes les fois où on pourra arbitrer, car il nous a. Je parle avec mon franc-parler. Heureusement qu'il y a eu une commission d'appel où les gens ont été neutres et ont compris et ont discuté notre. Notre plaidoirie est la preuve, parce que bon, tout le monde était suspendu. On a réussi à un garçon comme Julien Diaz, qui vient du rugby à 15, qui est vraiment neutre, ne méritait pas de manquer les phases de finale pour un acte qu'il n'a pas commis. En France, quand on est coupable, on paye, mais quand on n'est pas coupable, eh bien, on est innocent. Et je pense que la plaidoirie que nous avons effectuée à Toulouse a été payante.
Voilà. Bon, ça a été dit, ouais. Donc il y a deux présidents heureux ce soir, Jean-Claude Touchagas, heureux mais un petit peu abrasif ce soir, comme d'habitude, et c'est très bien. Serge Rose, évidemment, mais il y a un troisième président qui est à côté, qui doit être très heureux aussi, c'est Louis Bonnery. Alors donc, Languedoc-Roussillon grandement représenté, Montpellier pas loin en finale, que du bonheur.
Ben oui, parce que moi je suis extrêmement défenseur du rugby régional, de ses équipes et surtout de son développement, parce que ce sont des clubs qui travaillent beaucoup en profondeur depuis longtemps, qui ont tous des écoles de jeunes, et c'est chaque fois qu'on peut, avec nos moyens, nous essayons de les aider à notre façon, hein, et c'est des gens que nous connaissons bien, parce que... ce qu'on savait a priori pour nous, en raisonnant un peu égoïstement, c'est que le titre n'échapperait pas comme en division élite au Languedoc-Roussillon. Bon, ouais, voilà. Donc, mais malgré tout, on trouve au rendez-vous les équipes qui travaillent beaucoup, parce que ça c'est indiscutable. Et je pense par exemple le Barcarès, alors que l'an dernier on avait soutenu, hein, on avait aidé le démarrage de cette équipe de Minimes qui ne savait pas trop où elle allait, ben, les Minimes ont tenu l'an dernier, et cette année ils ont fini avec un titre de champion de France. Donc moi je trouve que c'est la juste récompense du travail qui se fait dans cette région, et si parfois on dit oui c'est toujours le Languedoc-Roussillon, moi je reste intimement convaincu que c'est le Languedoc-Roussillon, parce que c'est le Languedoc-Roussillon qui travaille certainement beaucoup à sa façon, mais qui travaille, et la compétitivité des équipes du Languedoc-Roussillon, elle naît de la concurrence qu'il y a dans cette région. Et cette année je déplore tout simplement que les équipes de fédéral aient été éliminées par une organisation de phase de qualification, parce que alors que nous on fait de l'expansion, on démarre des équipes, dans certaines régions ils réduisent le nombre des équipes, ça veut dire que c'est sûr, ils augmentent la compétitivité des équipes qui restent, mais bientôt il n'en restera plus.
Oui,
alors que nous chaque année, et là il y a 3-4 équipes, j'ai entendu tout à l'heure des juniors, des cadets qui vont démarrer un peu partout sur le territoire, et c'est finalement ça notre...
Oui, exactement. Où ça ?
Ben, les cadets, certainement le Barcarès se pose des questions. Jean-Claude parle d'une équipe junior nationale.
À Palot. Une équipe junior, c'est certain, voilà. À Palot. Demain soir, il y a une réunion pour définir les grandes lignes de cette équipe.
Des équipes fédérales dans l'Aude, des cadets, une école de rugby par exemple au Loquet, puisque comme l'an dernier, les équipes qui démarrent amènent en même temps, créent en même temps une école de jeunes. Donc moi, je trouve que nous sommes en plein dans notre mission et dans notre rôle, et nous aidons ces clubs. Et
je trouve tout à fait normal qu'ils soient dans les grands rendez-vous et qu'ils aient les résultats. Ça se passe entre eux, entre nous, ça se passe, mais c'est quand même, entre temps, il a fallu quand même qu'ils se le gagnent sur le terrain. Et c'est pas toujours simple.
Oui, exactement. Et on aurait tendance peut-être à l'oublier un petit peu, les minimes champions de France également, du Barcarès. Serge Rose, donc, deux équipes championnes de France au Barca cette année, c'est ouais, extraordinaire.
Deux équipes championnes de France au Barcarès, des minimes que nous avons montées, ça fait 2 ans. Championnat de France d'élite 1 cette année, quand même d'élite 1. La première championne de France, lui en DNN 1. Ça fait 3 ans de fil qu'on est champion de France.
Ouais, exactement.
3 ans et maintenant nous attendons les trucs de la fédération si on veut monter à l'élite 2. Nous voudrons bien rester en DNN 1 quand même pour monter nos jeunes. Parce qu'on veut remonter nos jeunes, ils ne sont pas prêts pour l'élite 2. Voilà.
Les jeunes joueurs que vous avez en équipe première, c'est ça ?
Voilà.
Est-ce que le club est assez structuré pour pouvoir monter financièrement, sportivement ?
Il faut dire quand même que le championnat d'élite 2 cette année, c'est pas pour autre chose, est costaud et le niveau est monté. Parce que bon, Palo, on est champion, on est le petit poussé puisqu'on est le plus petit village, hein, 2800 habitants, face à des agglomérations comme Montpellier.
Toulouse,
où Toulouse-Julien avait une équipe qui m'a surpris. Lyon, Corbeil, c'est toutes des équipes entregues qui est quand même Cavaillon,
bon, Albi.
Ouais. Je pense qu'on est le championnat à un niveau rugbystique assez élevé. On a assisté, moi, je fais pratiquement tous les matchs, à des matchs durs, des matchs engagés. Puis bon, moi, Palo, Villefranche-d'Auvergne, le jour où Palo est allé jouer, on battu des records de recettes. Lyon, le jour où Palo est allé jouer, il y avait 1000 personnes à Lyon. Il y avait plus comme pour un match d'élite. On est allé à Montpellier, ils ont fait 1500 entrées. On est allé à Albi un samedi, il y avait 2000 personnes. Bon, il y avait du monde dans les stades, il y avait de l'engouement. Par Cavaillon, qui est un peu, pour moi, c'est le désert, Cavaillon. Quand j'ai connu Cavaillon, quand je jouais et que je vois Cavaillon à l'heure actuelle, je suis attristé, mais je saluerai le travail qui est fait là-bas par les Pierre Crouzet et ses quelques dirigeants qu'il a. Et je souhaite de réussir parce que c'est dommage de voir ce stade et personne au stade. Mais à part tout ça, il y a du monde de partout et le niveau est assez élevé.
Ouais, de plus en plus, ouais, exactement.
Partout, ça monte. Hein, même moi, quand j'ai entraîné le Soleil en fédéral l'an dernier, j'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris. Le niveau monte.
L'explication serait où, selon vous ?
À tous les niveaux. Bah, la multiplication des écoles de rugby, d'abord. Et puis bon, l'effet dragon qui a mené des jeunes. Bon, on a un peu tendance à oublier qu'un gamin qui est cadet, 3-4 ans après, il peut jouer dans une équipe première de ce niveau-là, hein, s'il est vraiment bon. Hein. Donc, comment serait-on à 13 à prendre la conscience de la notion de moyen terme et de long terme ? On va voir.
Ça serait bien.
Je rejoins un peu ce que dit Jean-Claude, hein, c'est-à-dire que nous, il faut savoir combien on arrive de fédéral, hein, malgré qu'on nous ait traité l'année dernière, qu'on ait joué à un niveau qui n'était pas le nôtre, hein, c'était peut-être vrai, hein, mais c'est, on a joué avec. Il faut se rappeler que sur les joueurs, sur les 25 joueurs que j'avais là, c'est quand même 80% sortent des juniors, qu'on a eu il y a 4 ans, hein, sur 2 années.
Que j'ai entraîné d'ailleurs.
Oui, que j'ai entraîné aussi. Ouais. Donc, pour moi, la plus grosse satisfaction, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on est arrivé de monter, on est parti avec ces juniors, on a monté une première année en fédéral, hein, une seconde année en fédéral, on a tout raflé. Hein, et cette année, on est arrivé au bout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, le palier entre notre division et l'élite 2 est énorme. Hein. Je pense que là, autant, c'est vrai qu'en début de saison, je ne pensais pas, honnêtement, à part le président qui pensait qu'on arriverait au bout, moi j'avais dit, on fera une année pour d'apprentissage. Le niveau entre la fédérale, les bonnes équipes de fédérale et la DNE1, c'est équivalent. Hein. Autant quand on voit la finale qu'a livrée, bon, je suis sûr que c'est le haut du panier, mais enfin, quand on voit la finale qu'a eu après en Elite 2 et la nôtre, il y a quand même un gros palier.
Ouais, on a vu une bonne finale quand même, ouais. Concernant contre Tonnes. Moi, je ne suis pas forcément convaincu.
Non, mais enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'avant de monter, je crois qu'il faut faire des fondations. Hein. Donc, ce serait bien qu'on monte déjà une équipe cadet, hein, parce que qui dit des cadets dit dans 2 ans des juniors, et comme le signale Pierre, hein, c'est à partir de là qu'on peut construire. Hein. Moi, j'en suis convaincu, hein, parce que j'ai encore une fois, c'est avec ces jeunes que j'ai eu il y a 4 ans qu'on est là aujourd'hui. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Mais maintenant, nous, on a un problème, c'est qu'on a les minimes qui sont, c'est vrai qu'ils ont gagné le championnat, mais qui ont également gagné la coupe. Hein. Ils ont fait le doublé cette année. Hein. Ils ont fait le doublé, il faut le signaler. Bon, c'est dû au travail aussi de Bruno et de Christophe, hein, qui s'en occupent très bien. Ils souhaitent reprendre les minimes l'année prochaine. Donc on a quelques cadets qui montent. Je ne sais pas s'ils resteront tous, mais on va essayer de se structurer pour au moins essayer d'avoir des cadets. Alors bon, la fédération fera, puisque on est tenu à ce que nous dira la fédération. Hein, s'il faut monter, il n'y a pas de problème, on montera. Hein, ce serait bien pour les joueurs parce qu'ils verraient autre chose, mais ils vont voir la différence. Hein.
Serge, je m'adresse à toi. Est-ce qu'il faut un budget différent par rapport à si vous montez, par rapport à cette année ou pas?
Ah oui, il faut un budget différent. Il faut un budget au moins de 120 ou 130 000 euros. Hein.
Et actuellement, vous êtes à combien?
On est un budget de 40 000 euros. Voilà.
D'accord. Vous avez l'appui de la mairie, je suppose?
On a l'appui de la mairie, on a des sponsors, local. On a un peu de tout. D'accord. Et moi, je vois si il faut monter à l'élite 2, si la fédération nous dit de monter à l'élite 2, eh ben, je suis président, j'ai envie d'être toujours en haut. Et je crois, si on me dit de monter à l'élite 2, j'ai envie, c'est mon plaisir à moi. Je crois que je ferai une grosse équipe.
C'est vrai que sportivement, c'est...
La saison s'annonce chaude.
La
chasse est ouverte au transfert.
Pour reprendre ce qu'a dit Guy, je pense que c'est vrai qu'en ayant vu les deux finales, il y a eu quand même une différence physique entre les deux finales. Je pense au niveau du rythme et au niveau impact physique, ça s'est quand même vu. Alors c'est pas pour décourager le Barcarès, bien au contraire, s'ils peuvent monter en élite, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même un travail déjà physique à combler au niveau de l'effectif, je pense. Oui.
Ouais, le premier quart d'heure de la finale d'élite 2 a été impressionnant. Quoi. Je veux dire, en production de jeu. Pas un ballon tombé, c'était impressionnant. Quoi. Bon, après, il y a eu quelques approximations, mais c'est normal à ce niveau, avec l'usure physique et surtout la météo, parce que quand même il a plu. Mais après, ce qu'on a perdu en circulation de ballon, on l'a gagné sur le suspense et l'engagement physique. C'était vraiment super.
Ouais. Moi, je voudrais souligner que pour moi, Palou a gagné le match dans les 20 premières minutes à la deuxième mi-temps. Quand vous êtes monté en défense, la défense était très agressive et vous avez étouffé Montpellier. C'est là que vous avez gagné le match.
Quand ils sont revenus, à plus de discipline aussi, la discipline
en première mi-temps,
il y a trop pénalisé.
Ça a été le péché mignon de toute la saison, non, l'indiscipline. Bon, on est des Catalans, on a le sang chaud. Il a fallu que je rentre à la mi-temps parce que bon, mes joueurs, plusieurs fois, vestiaires, et bon, il a fallu que, comme d'habitude, dit Jean-Marie, mais je crois pas. Moi, je suis comme Serge Rose, quelqu'un de bouillant, quelqu'un de passionné. Vous me connaissez, bon, je suis trésiste jusqu'au bout des ongles. Je pense que s'il en reste qu'un, je serai celui-là. Et comme pas beaucoup, mais il a fallu, comme tu dis, en première mi-temps, trop de fautes, peut-être de pression. Et les joueurs, après en deuxième mi-temps, ont été forts en défense comme on l'a été toute la saison. Il ne faut pas oublier qu'on est passé près de la trappe en quart de finale contre Entraigues où il y a des miracles qui se produisent en rugby. Il y a eu un miracle ce jour-là. Si on avait perdu, il n'y avait rien à dire. On marque dans la dernière minute. Et voilà, ça tient un peu de choses. Un titre tient un peu de choses. Il y a deux ans, il y a trois ans qu'on a été champion en première division. Ça a été pareil. À Limoux, nommé Maryse nous a sauvés d'une défaite aussi contre une équipe de Réalmont alors qu'on était hyper favoris. Et puis on est allé au bout. C'était, je l'ai dit moi, Palo 13 a été champion de France en 90 en troisième division. En 2000 en deuxième. Et en 2010... en première, maintenant en 2020, place aux autres, parce que moi je l'ai dit, je le redis, en 2012 je laisse la place. Mais je viens d'apprendre maintenant, j'ai un coup de téléphone, bon, qu'on m'a donné la médaille de bronze de la jeunesse et sport dans la promotion du 14 juillet. Voilà. Que dire de
champagne.
Plus bon, de champagne. La médaille de bronze, le bronze, on se contentera de blanquette de Limoux. Hein, voilà.
Comment elle se contenter? C'est ça doit remplacer le champagne.
Non, mais on ne peut pas croire que M. Touchagas va arrêter. Il sera quand même dans le rugby à 13, dans le giron.
Je resterai dans le rugby à 13, mais bon, pour la présidence active, ça prend beaucoup de temps. Bon, moi, vous savez, je suis malade cardiaque. Peut-être que ces 4 matins, je vais rester sur le stade quand je m'énerve comme ça. Et bon, mais je suis passionné et il faudra m'en donner peut-être dans... 55 ans, on peut faire autre chose. Bon, sans laisser le rugby à 13, qui est ma passion, comme d'autres ont la chasse et la pêche. Mais bon, l'activité à plein temps comme à l'heure actuelle, non, c'est plus possible.
Jean-Claude, j'ai une question à te poser, puisque le Barcarès, si toutefois ils ont la possibilité de monter, ils monteront. Palo, ce n'est pas le cas, c'est un problème budgétaire, on le sait, c'est un problème financier. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de frustration malgré tout? Le fait de laisser la place à Montpellier, qui est vice-champion de France.
Pour moi, personnellement, non, parce que bon, Palo, c'est 2800 habitants, un soutien de la mairie en fonction de leurs moyens aussi. Et pour franchir l'étape, c'est sûr, supérieure au niveau rugbystique, moi, mon équipe avec trois joueurs de plus, un dans chaque ligne, je pense qu'on tiendrait la route, puisque... sur une saison, j'ai suivi l'élite 1 ou plusieurs fois et je pense qu'on ne ferait pas plus mal qu'Avignon, Carpentras et Saint-Gaudens avec 3 joueurs de plus. Mais 3 joueurs de plus, ça entraîne beaucoup de choses et nous préférons mieux être un club formateur, monter une équipe junior, s'occuper de l'école de rugby où on a 60 gamins, où il y a eu quelques petites structurer tout ça et peut-être pourquoi pas des minimes si on va essayer. Et que d'avoir le ventre plus gros que la grenouille et rester la Wanée.
Et Jean-Claude, l'équipe quand même réserve aussi.
Et l'équipe réserve aussi, où
on
va faire un effort avec cette équipe réserve qui, bon, avait des difficultés. Je laisse un SOS là-dessus aux dirigeants de Port-Vendre que j'ai essayé de contacter et que j'arrive pas, qu'ils me répondent pas avant le 30 juin pour essayer de savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a des jeunes pas loin qui n'ont pas le niveau pour jouer en élite. Et ce serait dommage qu'ils aillent renforcer des clubs de 15 de série inférieure où l'on s'amuse avec le Ricard. Mais bon, après le reste sur le terrain, rugbystiquement, les jeunes ne progressent pas, régressent. Et voilà.
Bien. Ce soir, on fait un peu la part belle. Hein. On fait différemment de d'habitude, puisque généralement, on parle des dragons. Puis, en milieu d'émission, on fait un large tour d'horizon au niveau de...
Honneur aux champions.
Exactement, de l'élite, de l'équipe de France, etc. Donc, ce soir, honneur aux champions. Guy, encore une question. L'avenir du Barcarès, à court terme, c'est quoi au niveau recrue? Est-ce que vous avez déjà planché sur le sujet?
Non, pas trop, parce que déjà, on veut savoir à quel niveau on va jouer. Hein, donc, on va attendre un peu. Hein. Bon, après, j'ai un paquet de jeunes, hein, donc bon, moi je vais toujours essayer de m'appuyer sur ces jeunes que j'ai eus, bon, en souhaitant qu'il n'y ait pas un exode vers d'autres clubs, parce qu'on a pas mal de clubs de fédéral qui vont se monter, enfin, du moins, on a Saint-Hippolyte qui va se monter à côté, donc on risque d'avoir un exode, parce qu'il faut savoir que quand même, à notre niveau, ce qui est lassant, ce sont les déplacements, hein, je pense que c'est la même chose pour Jean-Claude, hein. Hein, c'est la même chose pour Jean-Claude, donc c'est ça, hein, le plus difficile, c'est ça, hein, on a énormément de déplacements, et moi les jeunes, pour les faire tenir, ils ont plus l'âme de la fête, hein, et pour la fête en fédéral, c'est sûr que c'est idéal, hein, parce que, comme je dis, hein, on joue, à 6h on est au café, et voilà, hein, on est que là. Hein.
C'est pas le cas en Elite 2, où... Disons, avec des déplacements comme des déplacements à Corbeil, des déplacements à Lyon, des déplacements à Albi, et je passe le reste, c'est fatigant et c'est usant. Hein, passer les dimanches dans les bus, dans les avions. Palo, nous, on mange avec des barquettes, on mange au bord de la route. Quand il fait froid, il nous est arrivé cette année de manger dans une remorque d'un camion, dans une aire d'autoroute. Pour un club d'élite 2, parce qu'il faut boucler les budgets, parce que vous savez très bien, nous, Palo, élite 2, c'est 105 000 euros de budget. Quand je dis ça à mes voisins, quinzistes d'Elne et le président d'Argelès, qui vient me faire quelques yeux doux à des joueurs, ils se demandent comment on arrive. Et je pense qu'on est réaliste. À part si un émir arabe vient nous, avec un chèque, hein, Palo 13 sera présent en élite 2, mais pas plus haut et peut-être même plus bas un jour, parce qu'il y aura peut-être des gens qui n'auront pas envie de faire ce que je fais, l'abbé Pierre, toute l'année. Et grâce à des bénévoles que je tire, peut-être que c'est l'âme de Palo. Voilà.
Les émirats arabes et pas le rugby à 13, si je ne me trompe pas. Hein.
De toute façon, il vaut mieux jeûner parmi les aigles que picorer parmi les poules.
Ou Pierre Vergès, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Oh là là, c'est la phrase du soir.
La phrase du jour, ça, Pierre.
Je sais que Pierre recrue, Jean-Claude, sur Palo.
Ne parlons pas de. On fait la fête, hein. On fête le titre. Tous les soirs, il y aurait des invitations qu'on honore avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que les joueurs, preuve de la bonne ambiance cette année, ont fait une caisse avec des amendes, avec des retards, des tenues pas mises, des trucs. Et la semaine prochaine, les joueurs partent au Baléares. Avec cet argent, plus de l'argent qu'on a récolté d'amis et de manifestations qu'on a fait, partout aux Baléares, et après les Baléares, fin juin, on fera le point au niveau des recrues, des départs. Il y aura du mouvement, parce que déjà, il y a des joueurs qui sont sollicités avec de la surenchère, bon, mais on ne rentrera pas dans ce jeu. Qui veut rester, restera, à nos conditions. Ceux qui veulent jouer le jeu de l'enchère.
Je pense que pas cher, tu peux avoir ça, belle.
Ça y est, on a fait la transition.
Perry, vous en avez des joueurs disponibles, pas très chers, qui ont joué, qui ont goûté l'eau.
T'as un entraîneur aussi, Walter.
On jouera la carte franco-française et on n'a pas les moyens. La carte catalane, peut-être, parce que.
Voilà. Non, plus sérieusement, moi, je voulais poser une question aux deux présidents, savoir en termes de. Justement, vous êtes bénévole, donc savoir en termes de temps. Le temps que ça vous prend par semaine, hein, en moyenne, hein, puisqu'on sait que ça prend. Est-ce que c'est tous les jours où il y a quelque chose à faire pour le club ?
Je vais te répondre. Le temps, je ne le chiffre pas, parce que bon, c'est comme l'argent, on ne le chiffre pas. Et là-dessus, je rendrai hommage à mon épouse et à ma famille, parce que bon, le temps que je passe au rugby, je ne le passe pas ailleurs. D'ailleurs, on me le reproche assez. Et l'investissement que nous avons, bon, c'est la passion, on ne compte pas, on ne regarde pas. Et moi, les semaines sont bien remplies, sachez-le.
Tant qu'on passe au rugby, c'est du lundi au dimanche. Voilà.
Jean-Marie, toi qui as entraîné Palo, c'est facile d'entraîner avec un président comme Jean-Claude Touchagas ou pas ?
Bon, je vais répondre honnêtement. Hein. Bon, j'ai vécu des bons moments à Palo. Hein.
C'est vrai révélation. Que
j'ai passé quelques années à Palo, j'ai entraîné les jeunes, puis après je suis monté, j'ai entraîné la première avec Jean-Claude comme président. C'est vrai que c'est un président, comme il le dit, il vit sa passion jusqu'au bout des ongles. Hein. Et quand il le faut, comme à chaque fois à la mi-temps, s'il faut remonter les troupes dans les vestiaires, c'est le premier à le faire, hein, je veux dire, il est toujours présent. Et bon, et pendant le match, il y a toujours la pression du président dans le dos. Hein. Il n'y a pas de souci, il est toujours là.
Bon, sans doute un petit peu remarqué, c'est une question, mais on connaissait la réponse, donc mais c'est bien de l'entendre.
Ouais, mais je suis un banquier et je suis perfectionniste. Ouais. Et comme le sportif entraîne le financier, moi je demande, puis bon, on fait des sacrifices puisqu'il y a quand même une équipe de bénévoles. Il n'y a qu'à voir à Palo quand vous venez aux entraînements, ils ne sont pas nombreux, mais ils remontent les manches. Et les garçons qui viennent, qui assouvissent leur passion, parce qu'à notre niveau, il faut quand même, il y a des garçons qui assouvissent leur passion avec un certain défraiement, alors que nous, il n'y a pas un temps si lointain, les gens jouaient pour le maillot, pour l'amour du clocher. Nous, on donne ce qu'on peut. J'essaye d'enlever la culture de l'argent tout en restant lucide et réclos. Et je pense que si beaucoup de présidents étaient comme moi, il y aurait beaucoup de clubs sains, il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient de meilleurs résultats et beaucoup de meilleures ambiances, parce que quand j'entends ce qui se fait ailleurs, ce que l'on propose ailleurs et que la réalité de ce que l'on fait nous, je reste sceptique à l'avenir de certains clubs.
D'accord. Moi je suis d'accord avec Jean-Claude, parce que j'ai connu un club qui est mon club du village. On a vécu une grande folie. Hein. Et ça a été dommage. Si on aurait eu un président comme M. Touchagas au niveau gestion et rigueur, je pense que
Saint-Cyprien
serait en élite 1 aussi encore.
Dommage que ce soit un sommeil depuis tant d'années, Saint-Cyprien, alors qu'il y a enraciné, c'est le rugby à 13 en plus.
Tout à fait.
C'est
sacrément enraciné. Des fois, il y a beaucoup de dirigeants qui sont passionnés par intérêt et non par passion. Et puis quand l'intérêt n'est pas là, la passion diminue. Et c'est ce juste milieu qu'il faut trouver. Et il y a beaucoup d'endroits, et mon expérience le veut, puisque moi j'ai pris la présidence en 95 à Palau, suite à un titre de champion de France, justement, d'élite 1, non, d'élite 2, contre une finale Palau-Lyon à Entraigue, où l'ancien président, que je nommerai pas, avait laissé un trou et des finances avec un trou de 500 000 francs à l'époque, mais avait des ambitions politiques. Moi, vous pouvez être certain, je l'affirme, le jour où j'arrête le rugby, j'ai aucune ambition politique ni aucune autre ambition, que ce soit pour moi ou pour mon fils ou pour quelqu'un d'autre.
Tu vas t'ennuyer alors. Tu vas t'ennuyer.
Je suis pour la passion, le rugby à 13. C'est de la folie, c'est quand on regarde ça, mais c'est comme ça.
Bon, sur une heure et demie, on a consacré demi-heure aux deux clubs champions de France. Puis il y a eu pas mal de manifestations ce week-end, et notamment à Toulouse, Louis. Tu y étais évidemment, puisqu'il y avait les finales championnat de France des.
Oui,
des,
mais
des,
pourquoi des Toulouse jeunes. Parce que, bon, d'abord, Toulouse a été candidat. Le Languedoc-Roussillon est une terre d'accueil aussi pour tout ce qui est national. Moi, je regrette tout simplement, et je l'ai déjà dit, c'est pas nouveau, à cette émission, que la Ligue ne soit pas associée aux organisations nationales, que ce soit la finale à Montpellier, que ce soit les finales des autres divisions. Bon, on est invité parfois on n'est pas invité, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que si on vient dans le Languedoc, de Roussillon, où que ce soit à Montpellier, à Carcassonne, à Lézignan, à Saint-Estève, à Toulouse, à Palau, ou au Barcarès, parce qu'ils sont là, et chaque fois qu'on demande quelque chose, il n'y a aucun problème, c'est parce qu'on a envie de recevoir dans cette région, on est capable d'organiser, et il y a un potentiel d'infrastructures sportives qui font que le rugby à 13 est à sa place ici. Donc moi, je défends toujours l'idée, en tant que président de Ligue Languedoc-Roussillon, que je n'ai pas le droit, lorsqu'on prépare des équipes régionales qui sont issues de ces clubs, de négliger quoi que ce soit dans la préparation, dans la représentativité de ces équipes, parce que nous sommes quand même la première région de France, et si on est ça, c'est parce qu'il y a des clubs qui travaillent, ils sont nombreux. Donc voilà, donc cette semaine, il y avait des finales nationales à Toulouse, parce que dans la mesure où personne ne voulait organiser ailleurs sur le territoire national des finales de jeunes, Toulouse s'est porté candidat et a obtenu sans grande difficulté l'autorisation d'organiser ces finales. Donc nous avons eu 6 finales qui se sont jouées dans un esprit tout à fait remarquable. Il n'y a pas eu un seul incident de la journée, alors que bon, c'est quand même des finales. On a eu des finales entre équipes, entre Lézignan, entre Carcassonne et Lézignan, par exemple. Il y a eu le Barcarès, il y a eu Saint-Gaudens qui était là, il y a eu des équipes de Provence, Avignon. Bon, donc moi, en junior, nous avons eu aussi des équipes qui se sont affrontées, Marseille qui était là aussi. Donc moi, je suis très satisfait que nos clubs soient candidats aussi à organiser. Parce que c'est ça qui est important. Il ne faut jamais oublier que si les finales ont lieu, c'est parce qu'il y a des gens chez nous, des dirigeants, des bénévoles, comme dit Jean-Claude, qui acceptent de passer une journée pour tenir la buvette, s'occuper de la porte, parce qu'il faut récolter un peu, et que les petits bénéfices qu'ils font les aident à vivre dans la saison qui vient et à investir pour les jeunes. Donc voilà. Donc moi, je suis très satisfait que le Languedoc-Roussillon soit une terre d'accueil. Bon, il y a d'autres niveaux, comme la finale à Montpellier, où là, bon, c'est un autre niveau, c'est la division élite. Mais ça montre aussi la capacité de notre région, la capacité de notre rugby du Languedoc-Roussillon à pouvoir encaisser toutes ces charges. Parce que quand même, ça entraîne quand même des dépenses pour les supporters, ça entraîne des déplacements. Et tout ça, ça tire toujours. Il y a quand même les Dragons, il y a la division élite. Parce qu'on oublie aussi, parce que dans cette émission, on va en parler tout à l'heure, mais dans la réalité de la pratique, il y a quand même l'existence des Dragons catalans qui, lorsque bon, ils se mettent en route, bon, ben, comme ils sont en route, bon, ça ne peut pas passer inaperçu. Donc ça prouve la consistance du réseau du rugby à 13 dans le Languedoc-Roussillon. Donc moi, je suis content, parce que même si des fois on n'est pas tout à fait d'accord sur certaines choses, on peut sortir avec les clubs du Languedoc-Roussillon, avec ses dirigeants et avec ses joueurs. Voilà.
Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres comités qui se proposent justement à organiser des événements tu dis que qu'on est demandeur dans le département.
Non, on est demandeur.
Région,
non, la fédération propose chaque année un cahier de charges qui est diffusé au niveau national et qui demande qui veut, dans des conditions précises, organiser un certain nombre de manifestations.
Est-ce que, par exemple, l'Île-de-France se manifeste?
L'Île-de-France s'est manifestée pour organiser les interligues seniors fédéraux qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du mauvais temps et de la neige. Mais en ce qui concerne ces finales de jeunes, il y a une offre qui est faite, une proposition qui est faite par les commissions de la fédération, en particulier la commission des jeunes, qui diffuse plusieurs mois à l'avance qui serait candidat pour organiser une journée. Alors nous avons eu les intercomités dans l'Aveyron, par exemple, il faut espérer que d'autres régions seront candidates. Mais comme ça ne se bouscule pas au Portillon, alors on revient toujours à Toulouse ou dans les Pyrénées-Orientales et on dit c'est toujours eux qui organisent. Non, c'est toujours eux qui sont candidats à organiser.
Bon, d'accord. Alors, puisqu'il y a une
c'est pas pareil.
Puisqu'on parle des jeunes, il y a une volonté fédérale là de former des jeunes qui sont déjà juniors et seniors pour certains. L'équipe des Roosters est donc née il y a de cela 15 jours, 3 semaines. Alors Alain Forge, tu es dirigeant des Roosters. Qu'est-ce que c'est les Roosters?
Bien, les Roosters, c'est une équipe de France des 18-20 ans, auquel on peut ajouter 3 joueurs au-dessus de 20 ans, et qui va effectuer 9 rencontres contre des clubs de Super League britannique. Ils ont commencé hier. On a joué à Castleford dans l'ouverture des Dragons catalans. Et ils ont fait un méritoire match nul, 26-26, devant une lourde équipe de Castleford, avec un arbitrage, nous dirons, comme d'habitude, à l'anglaise. C'est-à-dire qu'au cinquième tenu, il y avait une nouvelle pénalité pour les Anglais, ceux qui faisaient 10, 15 tenues. Donc ils ont eu le mérite de faire ce match nul 26-26. Et je dois dire que j'étais agréablement surpris parce que c'est des joueurs qui viennent des pôles espoirs. Il y en a de toute la France. Il y en avait de Carpentras, de Toulouse, de Villeneuve. Et cette équipe fait un très beau rugby. C'est des joueurs qui sont capables d'écarter un ballon, de jouer, de fixer devant. Et je dois avouer un état d'esprit, je dois dire, exemplaire. Et ça, on le doit à Thierry Dumaine qui s'en occupe vraiment de main de maître. Et ça, c'est...
Combien de matchs pour ces équipes? 9 matchs.
Si vous voulez les voir, samedi à 14h30, ils rencontrent les Wakefield. Mais c'est à Toulouse.
Il n'y avait pas possibilité de les faire jouer un lever de rideau de
Dragon? Non. Ça pouvait pas parce que Toulouse aide les Roosters.
Ah, d'accord.
Donc il faut qu'on fasse 2 matchs à Toulouse et on fera 2 matchs soit Aimé Giral, soit Gilbert Botus. Et on les fait jouer à 14h30 parce que l'entraîneur estime que c'est une meilleure heure pour rencontrer les Britanniques que de jouer à 18h.
C'est de la tactique. Il y a des éléments vraiment prometteurs qui ressortent du lot un peu de ça.
Ah oui. Hier, par exemple, il y a eu Pélissier hier qui a fait un match extraordinaire. Extraordinaire. Il marque 2 essais et en plus il perce. Et des fois il oublie, il a oublié de donner le ballon une fois. À la fin, il y avait. Alors, on était 26-26, dernière minute. On rentre dans le camp de Castelfort, on arrive aux 20 mètres. L'entraîneur qui criait sur le terrain, sur le côté, il criait drop, drop, drop. Bon, Pélissier, au lieu de donner la balle pour Biennes, l'arrière de Toulouse, qui était placé pour le drop, ils ont joué le ballon à la main. Donc, ça fait qu'on était 20 mètres face au poteau. On aurait pu l'emporter 27-26. Mais ceci dit, Pélissier était quand même homme du match, à l'unanimité.
Pierre ?
Ouais, c'est super. Moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça me fait plaisir. Bon, mais quand on regarde globalement, il faut y a un pôle positif, un pôle négatif. Malheureusement, à 13, notamment au niveau de la formation, quand on amène des critiques qui se veulent constructives, on est mauvais très vite, on se fait scier. Moi, je trouve que Ambition Dragon, c'est super. Ce projet, il est super. Maintenant, attention au galvaudage qui est pas récent, hein, qui arrive depuis 20 ans du maillot de l'équipe de France. Une équipe de France, elle joue une équipe nationale.
Ouais.
J'ai vu une on va dire le mot, une escroquerie médiatique. J'ouvre Midi Olympique il y a quelque temps, je vois France Australie, la France bat l'Australie, équipe de France junior. Se trouve que c'était l'Institut national des sports australiens et non pas les schoolboys. Alors il faut faire attention à ces choses-là, quoi. On ment aux journalistes, d'accord. On ment au public, ça c'est une autre chose. Et surtout, on ment aux gamins eux-mêmes. L'Australie, c'est les schoolboys. Contre les schoolboys, on ne gagnera pas. Mais C'est comme contre l'académie.
Non mais les joueurs savent très bien qu'ils ont joué contre les Schoolboys.
Quand tu me dis,
ils ont posé contre l'équipe d'Australie.
Quand tu me dis, ouais non mais
ils
voilà,
le savent
mais
très
attention,
bien, les gamins,
attention.
Ils sont au courant.
C'est notre niveau. Effectivement.
Attention. Je sais que bon, Louis était DTN quelque temps, il le sait, qu'on essaie de jeter de la poudre aux yeux au ministère. Attention à ces choses-là. Une équipe nationale joue contre une équipe nationale. Et pas contre des clubs ou des sélections farcées à trappe.
Non, tu dis, je suis pas d'accord avec toi.
Le rugby à 13, c'est pas, Pierre, je t'arrête dessus, ouais. C'est pas un jeu de farcées à trappe.
Non.
On est peut-être considéré par les médias comme des farcées et des attrapes, mais on n'est pas un jeu de farcées à trappe. Tu as joué comme moi, tu sais très bien le rugby qui est pratiqué à quelque niveau que ce soit, le rugby Ricard. C'est pas le rugby à 13, malheureusement. Ah. C'est pour ça qu'on a doublement des difficultés à s'exprimer et à gagner au niveau international. Le milieu olympique.
Jean-Claude, tu ne déforme pas ce que j'ai dit. Moi, je me rappelle, je parle sous le contrôle de Louis Bonnery. Je me rappelle que l'équipe de France est allée faire un tournoi, l'équipe de France senior, hein, la grande équipe de France, est allée faire un tournoi. Challenge de la Méditerranée au Liban contre le Maroc et le Liban composé d'Australiens, c'était l'équipe de France, et pendant ce temps on faisait jouer en France une sélection française contre les Australiens. L'année où on fait un super résultat.
Du sujet des
le sujet t'as été international junior, moi aussi, le sujet c'est le galvaudage du maillot de l'équipe de France, qui est dans notre sport un scandale depuis pas mal de temps. Alors, je redis, pour que ce soit bien clair, au niveau de la formation des jeunes, au niveau de toutes ces initiatives, c'est très bien. Une équipe de France, c'est une équipe de France, elle joue des tests, elle joue des équipes nationales. C'est tout ce que je voulais dire.
Non, attends, ça s'appelle pas l'équipe de France, ça s'appelle les Roosters. Ça s'appelle pas l'équipe de France. Voilà.
Pourquoi vous l'avez pas appelé les Dragons ? Pourquoi les Roosters ?
C'est différent, parce que c'est la fédération qui a pris cette équipe en main, et c'est pas les Dragons catalans qui ont pris cette équipe en main.
Française, on est bien d'accord.
Le financement, il faut expliquer ça aussi, il faut l'expliquer aux gens. Parce que les Roosters, moi le Rooster le premier en tant que Trésis Averti, j'ai dit mais ça y est, les juniors australiens en pleine saison, ils sont du club australien des Roosters, sont en France. J'ai dit putain, mais qu'est-ce qui se passe?
Ils se sont appelés comme ça, si tu veux, en l'honneur du club australien des Roosters de Sydney, qui ont pris les couleurs tricolores à l'époque où il y avait
le coq.
Le 13 de France, etc. Qui était.
Ouais, mais là aussi, moi je suis pas d'accord. On aurait pu appeler les petits coqs ou un nom français, les Chanteclairs, un truc comme ça. Ouais. Pourquoi les Roosters aussi? Il faut arrêter là aussi. Non, on critique d'un côté l'Australie et après on s'en inspire.
Pierre a dit mot habillage. Bon, moi je pense que cette semaine là, c'est pas mieux. Il y a eu quand même un match international mercredi à Villeneuve où l'équipe de France a rencontré l'Académie. Et il y a quand même eu 5 essais d'écart, 8 essais contre 3 à l'équipe de France. Donc ça c'était un test match. Donc Pierre, le test match de l'équipe de France, bon, je me souviens il y a quelques années, parce que justement on jouait pas contre l'Académie, il y en a un par an ou deux et on connaît le résultat. Donc par rapport à un certain moment, ce qui était les Colts, l'équipe de France junior avait très peu de matchs, mais c'était des matchs de très haut niveau puisque c'était les stagiaires professionnels. Donc on est en train d'essayer d'organiser en France à l'heure actuelle ce type de confrontation entre les stagiaires professionnels anglais et ceux qui seraient dans les filières qui se rapprochent des filières professionnelles en France. La seule chose qui est préoccupante, c'est que quand une sélection nationale se fasse accrocher par un club. Quand on connaît. Bon, voilà. Donc, non, mais c'est pas très grave et c'est normal. C'est le début. Donc, je crois, Pierre, pour dire ce que tu dis, qu'on jette de la poudre aux yeux à personne. Non. Parce que dans le sport de haut niveau, il y a personne qui peut jeter de la poudre aux autres. D'ailleurs, cette semaine, on a eu la démonstration de 3 matchs de 3 équipes de France officielles qui ont été engagées dans 3 matchs officiels. Bon, ça a été les seniors.
Il faut savoir, attends, Louis, je t'arrête là parce que ça m'énerve cette histoire un peu.
Non, mais
voilà.
Moi, je
alors,
m'énerve
y
pas.
Avait. Oui, ça m'énerve. Il y avait.
Non, mais tu reviendras.
Il y a 40 sélectionnés. Et ils vont tourner à 40 sur la saison. Ils ne vont pas tourner à 15 types.
C'est bien,
ou 16 types
c'est bien ce que je dis. Cette semaine, il y a eu 3 matchs officiels de l'équipe de France. Et après, il y a eu des matchs qui préparent une future élite de l'équipe de France.
Ça va bien, quoi.
Donc, les Roosters,
alors, c'est jeunes maintenant. Ces jeunes, ils vont partir. Ils vont partir où? Si tu ne les fais pas jouer, ils vont aller où? Ils vont aller jouer à 15, ils vont aller quoi? Comme on voit.
Il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Alors c'est facile. On n'a jamais dit que c'était l'équipe de France, ça.
J'ai jamais parlé d'équipe de France, moi.
À des moments, vous savez pas ce que vous voulez.
Non, mais attends. Moi, je n'ai pas parlé d'équipe de France. J'ai tout simplement dit qu'aujourd'hui, on essaie d'organiser en France une manière de préparer l'élite, de la placer dans les mêmes conditions que ses adversaires anglais.
Je parle pas de toi, Louis.
Oui, non.
Alain, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, sinon c'est comme applaudir d'une main, on n'y arrive pas. Il faut s'écouter. Je te dis, je recommence. Ouais. C'est très bien, c'est des bonnes initiatives, comme Ambition Dragon. C'est toi qui as parlé, c'est comme une équipe de France au début. Donc,
c'est une sélection française. Voilà.
Après, sélection française, tout ce que tu veux. Moi, j'ai été choqué. Je te le dis clairement, j'ai été choqué, et ça n'a rien à voir avec cette structure-là. Voilà. J'ai été choqué quand j'ai ouvert Midi Olympique, que j'ai vu France-Australie. Junior, où les Français ont perdu de 3 points et tout ça, et qu'après, j'ai appris que c'était l'Institut National des Sports. Voilà, donc je dis attention, il ne faut pas prendre les gens pour des dindons. Mais ça n'a rien à voir avec ça, il ne faut pas tout prendre comme...
Il faut le dire, parce que...
Voilà.
La façon dont tu disais, on avait l'impression...
Attention, quand tu as parlé d'équipe de France, quand tu as... Non. Je ne vais pas recommencer le troisième fois.
Si vous permettez, moi, ce qui...
Tant que tu veux.
Moi, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est que... En fait, on va lancer Ambition Dragon. D'ailleurs, ils ont commencé, il me semble, la semaine dernière. Il y a les roosters qui viennent de se créer. Mais alors, le problème, c'est que, en termes de temps... Quand est-ce que ces gamins pourront récupérer ? Parce qu'ils embrayent juste après le championnat de France sur les Roosters, puis Ambition Dragon, et puis septembre arrive, et c'est reparti vers le championnat. Donc là, par contre, est-ce qu'il n'y aura pas une saturation autant physique que mentale à ce moment-là ?
Ça, c'est possible. C'est pour ça qu'ils vont les faire tourner à 40.
Mais ils s'entraînent tout le temps. Voilà. Ils s'entraînent tout le temps, quand même. Ils s'entraînent tout le temps.
Non, t'en as 18, ils en convoquent 18, 20 chaque fois.
Donc, Pierre, toi qui es bien placé pour les formations, je vois Ambition Dragon... qui embraye juste après le championnat de France. Ils vont terminer donc fin août. Septembre, ils vont repartir en club. Est-ce que justement cette multiplication de matchs et de rendez-vous sur la pelouse, ça ne va pas les user et engendrer des blessures ?
Tout dépend de la trêve qui va y avoir entre ces opérations-là et la reprise de championnat de club. Après, bon, il y a un staff médical qui est compétent qui gère ça, quoi.
Il faut voir le gamin, puis s'il est fatigué.
Après, on ne sait pas, tant qu'on n'a pas vraiment les rythmes de match, je pense pas quand même que au niveau du staff médical, il fasse n'importe quoi.
En levant le pied, ça fait quand même 12 mois, je veux dire, plein, quoi. Non, Louis?
Oui, mais bon, derrière tout ça, il y a quand même le problème important de l'harmonisation des saisons. Parce qu'aujourd'hui, le grand débat en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, c'est de savoir si oui ou non on va passer tout le système rugby à 13 va passer à la saison d'été, c'est-à-dire à l'organisation de la Super League. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on est encore avec une partie du rugby anglais qui n'est pas celle que nous rencontrons avec ces équipes. On est dans le schéma historique d'un sport d'hiver, c'est-à-dire la saison qui commence en septembre et qui se finit au printemps suivant. Alors la Super League, elle commence en janvier, elle finit en octobre. Donc aujourd'hui, il y a toujours ce fameux décalage qui pose des problèmes comme ça en a posé à l'époque avec l'autre hémisphère, puisque quand eux sont au repos, nous on travaille. Alors que là, maintenant, tout le circuit professionnel fonctionne en même temps. Donc, par contre, nous, dès l'instant qu'on veut introduire un aspect professionnel, on est obligé de transformer un système hivernal à un système qui calque à celui professionnel. Ce qui veut dire que tous les systèmes basculent dans le même timing, et à ce moment-là, on trouvera facilement les raisons de s'organiser, mais tant que cette discussion importante et culturellement qui risque d'être révolutionnaire, mais en son temps, bon, la Super League l'a bien fait, c'est de savoir quand c'est qu'on va pouvoir véritablement organiser les matchs internationaux qui vont permettre justement à cette élite, l'élite d'ailleurs des seniors ou des jeunes, de récupérer et de se refaire la santé, parce qu'on peut en arriver... Et là, je vois que chez les jeunes, il y a la rotation. On peut en arriver au phénomène que des garçons vont jouer 4, 5 ans sans jamais s'arrêter. Ce qui est suicidaire au niveau de la préparation et au niveau de la préparation élite. Mais il y a quand même un débat très important.
Ça, Louis, c'est bien. Je voulais embrayer sur l'équipe de France. Ils ont fait un match en plein championnat Super League. Est-ce que tu trouves que c'était bien préparé fin?
Non, mais moi le problème
était bon.
Non, mais l'intention, on le sait. Le problème que nous avons en France, c'est qu'on essaie de s'évaluer depuis plusieurs années. On essaie de se faire des tests intermédiaires pour savoir où on en est par rapport aux Anglais, aux Australiens. On le sait. On n'a pas besoin, à mon avis, on n'a pas besoin de faire des tests match intermédiaires. Exactement. La seule chose que ça perturbe, c'est que les Anglais, bon. Ont 11 équipes, ils forment l'équipe d'Angleterre avec 11 joueurs issus de 11 clubs différents. Nous, on forme l'équipe avec 11 joueurs issus du même club. Puis, donc, ce club qui joue 3 jours après et, ou qui a joué 4 jours avant et qui va encore rejouer samedi. Donc, quelque part, bon,
puis,
il faut.
Et puis, bah, la question tout. Se pose différemment. Si les Dragons étaient 3e en championnat Super League et fournissent 13 joueurs, on dit bon. Ça va passer. Non. Là, en étant dernier, tu te dis.
Non, ça n'arrive dans aucun club de Super League, qu'un club de Super League, Wigan, St. Helens, même avec tous les joueurs qu'ils ont, fournissent 11 joueurs. D'ailleurs, la Super League a repoussé le match. Mais ça ne résout pas le problème qu'un joueur d'élite qui a joué samedi avec l'équipe de France, mardi avec les Dragons et qui va jouer samedi, il aura fait 3 matchs du circuit professionnel de très haut niveau en une semaine.
La Super League connaît ça déjà, pas que il y a toutes les années comme
mais
ça.
C'est une fois par an, voilà. Et c'est des problèmes de club. Là, c'est qu'on tire toujours sur des mêmes joueurs, mais l'organisation du calendrier, d'ailleurs les discussions qui suivent non officielle, mais qui quand même transparaissent à travers la presse anglaise, c'est que est-ce que ce résultat n'a pas condamné ces tests intermédiaires qui, dans l'esprit de tout le monde, ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à perturber un peu l'équilibre des équipes du championnat et qui, au niveau de l'évaluation, ne change rien. Les Anglais savent où ils en sont, ils savent où ils vont quand ils vont rencontrer la Nouvelle-Zélande et l'Australie au mois d'octobre, et nous, on sait où on en est dans la Coupe d'Europe. Je crois que ce n'était pas la peine de faire un test match comme ça, quoi, dans ces conditions.
On n'a pas eu trop de cadeaux non plus, puisqu'ils avaient fait revenir Gareth Ellis, ils avaient fait revenir.
Non, mais eux, ils prennent les choses au sérieux, ils rigolent pas. Il y a le test, Parce que là où on a quand même voulu instaurer le statut de test match à ces tests, il fallait s'attendre à ce genre de choses. Bon, le jour où on dit on l'a eu fait, on va faire une tournée, on joue contre Wigan, on fait des matchs de contre des sélections régionales. Bon, on gagnait pas, mais on gagnait des fois, on perdait aussi, comme tout le monde. Dire qu'on n'a jamais perdu, c'est mensonger, donc c'est pas comme ça que ça se passe. Mais à l'heure actuelle, vouloir instaurer des test matchs au milieu ou en fin de saison, c'est très dangereux.
Il y a l'Anzac Test à Australie-Nouvelle-Zélande. Mais ils ont le même problème, visiblement, avec les New Zealand Warriors. Hein.
Moi, j'aimerais poser la question à Guy, puisque en tant qu'entraîneur, je suppose qu'il a dû voir le match d'équipe de France. Hein. Savoir un peu ce qu'il pense de cette équipe de France, et notamment de Sidney Harrier, où je reconnais, on en a parlé l'autre jour, c'était le dernier invité d'émission, Sébastien Raguin. Bon, c'est vrai que c'est une seconde ligne qui est repassé, qu'on fait jouer au centre, mais je ne reconnais plus Sébastien Raguin, je ne reconnais plus certains joueurs depuis, je suis désolé, mais depuis que Walter c'est au Dragon. Hein.
Enfin, je sais pas, c'est difficile, bon, parce que quand on a une vue, on a toujours une vue extérieure, hein, il faut savoir, après il faut être à l'intérieur, hein, pour savoir exactement ce qui se passe, donc c'est difficile de juger extérieurement. C'est sûr que quand on voit extérieurement les performances, que ce soit avec les Dragons ou que ce soit les performances de l'équipe de France, bon, on se pose des questions. Maintenant, il faut savoir exactement comment ça se passe à l'intérieur. Moi, je sais pas. Bon, moi, ce que je peux dire sur le match de l'équipe de France, c'est que bon, c'est un peu à l'image de ce que fournissent les Dragons. Hein. C'est-à-dire, bon, comme l'a dit Louis, hein, on avait quand même 11 joueurs qui ont joué 3 jours avant, qui ont joué là et qui ont joué dans 3 jours après. Donc peut-être que physiquement, ils sont fatigués, même si c'est vrai que les résultats ne sont pas au niveau de nos espérances, surtout pour les Dragons. Et bon, ça se reflète un peu sur l'équipe de France. Hein. Voilà, c'est...
Il faut dire aussi qu'on joue de malchance, une cascade de blessés, on a fait venir des joueurs à la hâte, je pense à Munoz notamment. C'est difficile de pouvoir avoir une harmonie.
Est-ce que la vision de cette demi-finale, qui certes est le 8 ou 9 août, je sais plus, le 8 août, je crois, est-ce que ça peut peser ça dans la tête des internationaux qui jouent 3 matchs en 8 jours en se disant aïe aïe aïe, il faut
passer pas le moment. Non, je pense pas. Honnêtement, puis bon, je pense que quand les joueurs sont convoqués, que ce soit bon, quand ils sont pris pour les Dragons, quand ils sont convoqués avec l'équipe de France, je pense qu'ils sont là pour se donner à fond. Hein, et bon, je l'espère, non, mais je pense que oui. Hein.
Sur le problème du match de l'équipe de France contre l'Angleterre, c'est que les Anglais ont joué, ils ont senti le moment où ils pouvaient tuer le match. Ils ont marqué 3 essais en 3 minutes, ce qui a monté le score avant la mi-temps, ce qui a coupé les derniers espoirs qu'il pouvait y avoir. L'équipe de France a quand même bien manœuvré pendant les 20 minutes de la deuxième mi-temps, puisqu'il n'y a pas eu d'essai, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça veut dire que la défense tenait, que bon, ils étaient bien quand même dans le système de jeu. Et puis les Anglais, à un moment donné, ils ont achevé de tuer le match dans les 7 dernières minutes, comme ça arrive en Super League, où ça joue. Et nous l'avons vu avec les Dragons lorsqu'on était dans une autre configuration des Dragons. On a vu des matchs qui ont basculé à la corne. Donc la Super League, c'est de la première à la dernière minute. Et le football de haut niveau, ce que j'ai vu hier par exemple sur le Brésil ou dans son match, y a eu un but qui a été marqué. On joue jusqu'à... Tant que la corne n'a pas sifflé, on joue à ce niveau-là.
Mais justement, vous n'avez pas eu cette sensation que les Anglais, bon, le dernier quart d'heure accélère vraiment, on sent qu'il y a vraiment une accélération, de la sensation qu'ils aient joué ce match à 60%, notamment les 20 premières minutes de deuxième mi-temps?
Non, pas, ils ont joué à fond.
Ils ont joué à fond.
Moi, ce qui... Jean-Claude. Moi, ce qui me... C'est inquiétant. Je veux dire, il faut regarder les choses. C'est inquiétant tant qu'à la qualité du jeu fourni, parce qu'on n'arrive pas à se faire 3 passes. On joue au rugby coffre-fort. Alors, effectivement, on tient plus ou moins bien en défense. Si tant est que prendre 60 points, on tient en défense. Maintenant, quand on fait un retour vers le passé, on a quand même, on peut plus se retrancher. Bon, même si on n'a qu'une équipe, hein, mais on peut plus se retrancher sur l'amateurisme. On a une dizaine de joueurs qui sont professionnels dans cette équipe, qui s'entraînent tous les jours, 2 fois par jour, qui sont des Français, hein, qui jouent une compétition extrêmement exigeante. Et par rapport aux équipes de France des années 90. Ou avant, où là on était vraiment pour le coup amateur, on prenait moins. Ça veut dire que notre rugby est en train de s'effondrer.
Oui, il faut dire aussi que le niveau en Angleterre a aussi évolué. Hein.
Non, mais le niveau a aussi évolué, mais bon, il n'y a que nous qui n'évoluons pas. Non, c'est pas le temps qui passonne, c'est nous qui passons, mais là.
Non, mais il faut pas tenir compte de ce résultat parce qu'on regarde la composition.
Ça fait 3 ans de suite, Jean-Claude.
Il faut voir quand même qu'il y a eu un Four Nations où on n'a pas pris l'eau, ou disons qu'il y a eu des résultats plus conformes à la réalité, avec des écarts un peu moindres quand même. Il faut pas oublier que, donc à Serres, on a fait avec une équipe qui était préparée, qui n'était pas en pleine saison, on avait pris 60 points à Paris, à Doncaster on en a pris que 34, on en a rendu 12, on aurait pu en rendre plus. Mais moi je suis pas d'accord sur ce que tu dis, Pierre, on regresse pas. Je dis ces matchs sont les malvenus. Il y avait une équipe de France, avait des joueurs qui ont été appelés au dernier moment, des joueurs qui sortaient d'une finale, qui avaient fait la bringue toute la semaine. Exactement. Qui se retrouvent là-dedans, qui n'ont pas, à mon avis, la préparation pour ça. Il y avait des demi-dragons, parce que moi je dis c'est des demi-dragons. Les dragons, ils n'ont que l'étiquette, dont mon fils qui s'entraîne mais qui ne joue pas. Et on sait très bien ce que c'est de s'entraîner et de pas jouer. Et d'autres comme ça. Des dragons qui sont pas en forme, mais ils sont pas blessés. Des dragons qui reviennent de blessures. Et je pense que ça fait beaucoup face à une équipe qui se permet de faire venir des 3 joueurs, rien qu'avec les frais de déplacement. Je pense qu'ils n'ont pas couvert la recette. 3 joueurs d'Australie. Alors que c'est vraiment typique aux Anglais, comme dit Louis, c'est un test. C'était Gillette. À la fin du match, il y a eu une récompense, il y a eu tout un cinéma. Et ces joueurs, ils n'avaient pas besoin de les faire revenir. Ils auraient pu faire venir 3 jeunes quand on sait dans la qualité du championnat qu'ils jouent, dont Gareth Ellis et Burgess, qui sont pratiquement des stars à NRL. Bon, ouais. Alors, on régresse, non? On stagne.
On
n'a pas le réservoir. Je le maintiens. On ne peut pas avoir un réservoir. On n'a pas de joueurs. On n'a pas d'argent. Et on n'a pas de joueurs. C'est pas en ayant 6600 spectateurs dans une finale championnat de France que vous m'expliquerez que des clubs peuvent avoir des joueurs. C'est pas possible. Vu le résultat. Et ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est quand je vois les efforts que font les gens pour faire des jeunes, les dirigeants qu'il y a. Et après, quand il y a des bons jeunes. Ils vont partir parce qu'on n'a pas l'argent pour les garder. Et on n'aura pas l'argent pour les garder s'il n'y a pas une tendance, un truc. Alors, les dragons, les petits dragons, les roosters, l'équipe de France, chapeau, c'est bien. Mais je pense que notre élite est regardée à la loupe. Toi, tu dis que sur Milieu Olympique, on regarde et on fausse les gens, on fausse pas les trésistes, parce que je crois qu'il n'y a que 500 abonnés trésistes qui sont à Milieu Olympique, et les 15, ils regardent un peu plus notre championnat, parce que c'est des cousins, mais le cousin qui a un gros ventre, et nous on est maigres comme des Bengladis, ils regardent, et s'il y en a un de bon, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, eh bien on vient de nous le chercher. Et les garçons, on vit dans un monde au 21e siècle où l'argent est roi. Et ouais, voilà. Et
la Jacques passion, Claude, t'es banquier. Je suis banquier. Tu sais très bien que c'est comme dans, c'est comme dans l'entreprise. Ah, hein, je veux dire, l'argent, c'est pas un but, hein, c'est une conséquence.
Non, l'argent, c'est le but. C'est le but de la vie de beaucoup de monde.
Non, mais c'est, eh bien justement, beaucoup de monde se trompe. L'argent, c'est une conséquence. C'est comme un résultat sportif. C'est une conséquence. C'est une conséquence d'un travail qui est fait en bas, en aval.
Il est fait. Donc, le travail, mais le travail est fait par tous ces gens qui font des dragons, des roosters, mais on ne régresse pas. Il n'y avait pas avant, tu sais très bien comme moi, il y a 20 ans en arrière, il y avait une équipe junior au 13 catalan, une équipe junior à Saint-Estève, une équipe, il n'y en avait même pas il, sur tête, une équipe cadet au 13 catalan, une équipe cadet à Pia par la suite, il n'y avait rien. Maintenant, on ne régresse pas, il y a des écoles de rugby partout, il y a des minimes. On se fait 3 ou 4 championnats, on ne régresse pas, on n'a pas la qualité.
Au niveau des résultats internationaux, moi, mon livre de chevet, c'est le bouquin de Louis. Je regarde les résultats des équipes nationales.
Écoute-moi,
je suis désolé. On était, pour le coup, à l'époque, on était totalement amateurs. Nous, quand on jouait, Jean-Claude, on s'entraînait 2 fois, 3 fois par semaine.
On gagnait pas
les
pareil.
Les Anglais s'entraînaient déjà tous les jours.
On ne gagnait pas pareil. Bon, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné les Australiens depuis 78.
Oui, mais d'accord. Mais...
Moi, je pense que sur cette affaire-là, je crois que malgré tout ce qui se fait, moi, je pense qu'il y a une trop grande multiplication des confrontations. C'est-à-dire que les Anglais, par exemple, lorsqu'on parle des roosters, là, des petits roosters, c'est les moins de 18 ans ou les moins de 20 ans. L'ambition Dragon, c'est moins de 18 ans. Nous, on a une équipe, eux, ils ont un championnat des moins de 20 ans et un championnat des moins de 18 ans. Donc, chaque fois qu'on rencontre un élément de ce championnat, ça, c'est une bonne formation.
Voilà.
Lorsqu'on rencontre une sélection française de moins de 18 ans, du même âge qui sort d'un championnat des moins de 18 ans, c'est là que ça devient problématique. Et c'est là-dessus que... Donc moi, je pense que dans un premier temps, et chaque fois ça a été comme ça, de multiplier les échanges, de multiplier les confrontations devant des adversaires qui ne sont pas forcément du même niveau, qui sont d'un niveau trop supérieur, c'est très dangereux parce qu'on disperse notre élite, on ne la concentre pas sur des objectifs simples et clairs et moins nombreux, et on en arrive à ce genre de situation. Ou alors on fait des matchs qui ne servent à rien, mais que dans leur tête, ils prennent très au sérieux. Le test Angleterre-France, dans la mesure où on a voulu lui donner le statut de test match, on n'avait rien à attendre au niveau de la conception chez les Britanniques. C'était pour McNamara son premier test. C'était la manière de constituer l'équipe qui va rencontrer les Tri-Nations. Donc lui, il a dit, moi, je ne peux pas me permettre de commencer en mettant la moitié des moyens ou en ne mettant pas le maximum des moyens disponibles de la Rugby League pour reconstruire une équipe des Lions qui a l'objectif de battre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ben, ça ne veut pas dire qu'il va y arriver.
On est eux, ils se donnent du rugby.
À ce sujet, je crois qu'il refuse de jouer la France l'an prochain en juin, non, si je ne me trompe pas.
Ah ben, le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, il ne refuse pas de jouer. Il considère que ça ne sert plus à rien, à personne. Et surtout pas à nous.
Voilà.
Alors que
c'est le match avec opposition.
Alors que Goulding le dit, et moi je pense qu'il a raison, c'est que c'est tout à fait possible et même souhaitable que la France, dans la Coupe d'Europe, sorte première de la poule contre le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. C'est pas du tout impossible. Mais on sera là aussi, on va retomber dans la même dynamique. Celui qui va aller aux Tri-Nations, voilà, et c'est l'éternel problème. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a 3 équipes.
Mais t'as le problème, c'est comme les équipes de 2e division qui montent en 1ère division, qui font l'ascenseur. En rugby à 15 ans, il y a 3 divisions internationales. Il y a 3 divisions internationales avec 3e division, il y a l'Arménie, l'Allemagne. Bon, nous, il faut assumer, quoi. Je veux dire, le rugby à 13 français aujourd'hui est en 2e division, est en 2e division au niveau international. Tu l'as dit toi-même.
Oui, non, mais attends, je pense qu'il ne faut pas.
Qu'on commence à partir de là, quoi.
Non, mais l'organisation internationale du jeu actuelle, elle est faite pour 3 pays. D'ailleurs, la dernière Coupe du Monde a été l'illustration. On fait une poule où les 3 sont ensemble. Dans cette poule, il n'y en a qu'un qui n'est pas qualifié, c'est le dernier. On savait qui c'était avant de commencer. Les autres vont s'entretuer avec les 12 ou 13 pour savoir qui va les rencontrer en demi-finale. Et on savait, a priori, il n'y avait qu'un seul doute. Ouais. Non, on n'avait qu'un seul doute, qui allait être le quatrième pour faire une demi-finale. Exactement. Contre qui, on ne savait pas.
Donc, c'est déjà bien qu'il ait fait.
Donc moi, je pense qu'il faut se faire une raison. Aujourd'hui, il n'y a aucune équipe dans tout ce qui n'est pas la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, pour le Congo, c'est la même chose, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on ne sait pas qui est le quatrième derrière. Moi, je pense que la France, elle n'est pas loin d'être la quatrième, selon les années, selon les circonstances.
On finit dernier de la Coupe du Monde, Louis. Attends, à un moment donné, on ne peut pas faire dire au résultat une chose.
Oui, mais d'ailleurs, le fait d'avoir fini dernier sur 10. Mais attendez.
Ce soir en foot, attention, Pierre, l'Espagne perd contre la Suisse.
Mais c'est le foot. Le foot,
Pierre,
Olivier, le foot, c'est l'un des rares sports où l'équipe de nationale peut arriver en finale de Coupe de France.
Nous, on a envoyé une équipe de touristes pour aller faire des fins de carrière. Pour aller en Australie. Alors à partir de là,
Jean-Claude, c'est le choix de ceux qui s'en occupent, c'est pas le nôtre, mais moi je pense que la conséquence du fait qu'on ait fini dernier, ça veut dire que à la table il y a plus de statut établi pour personne au niveau mondial. Ça veut dire que la France, qui était un pays historique, qui avait son statut de membre fondateur de l'International Board, avait sa place immuable et a priori sans résultat, ça a provoqué de telles réactions dans les pays du Pacifique que comment le 12e peut-il faire les Four Nations? Alors donc on a instauré un nouveau principe. Organisant une compétition en Europe, le premier disputera une année là-bas, une année dans le Pacifique. Donc voilà. Mais par contre, les trois autres, eux, ils ne bougent pas. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'un jour, que les quatre ne bougent plus. Et qu'un soit le quatrième qui ne bouge plus.
Messieurs, on a dérogé à la règle ce soir. C'était un tour d'horizon assez complet de ce qui se passe en France au niveau rugby à 13. Et on va quand même parler de ce qui nous intéresse en plus haut lieu, c'est le Dragon Catalan qui joue ce week-end donc, contre Wakefield. Et donc le constat est toujours le même, que chaque fois qu'on se retrouve, eh bien, on parle de défaite. Là, il y a donc 17 journées de championnat qui se sont écoulées, il y a uniquement 2 victoires. Olivier, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
Il nous reste à préparer une demi-finale de Cup qui peut te sauver la saison et qui peut faire entrer quelques pépettes, comme on dit au club, qui en a bien besoin. Et puis l'activité est sportive en ce moment, puisqu'on sait que bon, les matchs continuent, que tu sois dernier ou premier, il faut continuer. Et puis il y a tous ces joueurs qui sont en fin de contrat. Et alors il y a beaucoup de bruit. Et bien on attend que ça se décante. Alors il y a une table catalane très importante qui d'habitude on n'y participe pas. On y va de temps en temps mais pas à toutes. Mais là il y en a une très importante le 25 juin au chapiteau à Brutus où l'on va présenter au Peña la veille, c'est pour les sponsors. Toujours au chapiteau à Brutus et le 25 à 20h. Où le président va présenter donc, les prestations de la nouvelle tribune avec ce qu'ils vont proposer au niveau boutique, au niveau abonnement et tout ce qui s'ensuit. Et le sportif pour l'année prochaine, où je pense qu'on devrait nous annoncer le futur entraîneur des Dragons.
Donc il circule déjà quand même.
John Kier, l'entraîneur Wakefield qui apparemment suit les Dragons.
On a connu l'équipe de France.
Bon, j'en sais rien, moi pour l'instant je sais pas. Je sais qu'il y avait un entraîneur lundi à Perpignan qui a été reçu par Bernard.
C'est John Kier.
C'est John Kerr, même si tu le dis. Et donc, il faut aussi voir ce qui est très important, le renouvellement des contrats, notamment des joueurs français. David Ferriol, Olivier Lima, Dimitri Pello, qui apparemment se dirigerait vers le 15 à Montpellier. Et donc, il y a une grosse activité, ouais.
C'est un sujet épineux, ça, puisqu'on sait que Jamel Fakir, c'est officiel, s'en va à Castres. Dimitri Pello, visiblement, c'est plus que bien avancé. Là aussi, il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, vous ne croyez pas?
C'est ce que ça rejoint ce que je dis, hein. C'est l'argent est roi et voilà, et une équipe qui gagne génère de l'activité, une équipe qui perd en génère bien moins. On est dans un monde économique, je suis banquier, je suis bien placé pour le savoir. Et si on a un débat là-dessus sur le sportif, il faut savoir que l'économique gère le sportif malheureusement et oui. À ce niveau-là. Au niveau de Palo, c'est moindre, mais au niveau des Dragons, c'est pareil. Par contre, là où je ne suis pas d'accord et avec Pierre, c'est que l'équipe de France, elle appartient dans un système et je pense que le test qui a été l'autre jour avec les Dragons était programmé par les Anglais et par leurs sponsors.
par Gillette. Et c'est Gillette qui veut que ce match se joue. Et si Gillette, ça rejoint toute mon analyse économique, si Gillette ne finançait pas, c'est pas avec les 8000 spectateurs qu'il y avait au stade à Lille samedi qu'il y aurait ce match. Parce que connaissant les dépenses à faire venir des joueurs d'Australie sans sponsoring et sans rien, ce n'est pas les Anglais qui feront ça. C'est l'argent. Et on revient là-dessus. Le problème des Dragons, peut-être au niveau du recrutement, au niveau de trucs, c'est l'argent. Je ne suis pas au courant, mais je pense que l'argent est roi.
Tout à fait, on a bien compris. Mais non, mais alors après, moi, j'ai. Que Jamel Fakir parte à 15, bon, il a fait quand même déjà une longue carrière à son âge à 13. Il a beaucoup apporté aux 13, ça, on ne va pas y enlever. Il a eu deux grosses opérations. C'est un des plus gros salaires des Dragons. Bon, à la limite, qu'il parte. Mais moi, un gars comme Dimitri Pello, moi, je les aime tous comme mes frangins, hein, les joueurs des Dragons. Franchement, il y en a quelques-uns qui viennent manger à la maison. Aller le chercher en Australie, où il est totalement inconnu, venir le faire au Dragon, il fait de belles saisons parce qu'il mouille le maillot vraiment à chaque match. Il re-signe le contrat il y a deux ans, Bernard lui fait une hausse de salaire qu'il méritait. Et là, de la façon dont ça se passe, où il n'y a que l'argent, vraiment l'affectif ne compte pas du tout. Ça, pour un président, moi je pense que ça doit être dur à gérer quand même. Parce que Jean-Claude, quand tu aimes un joueur, quand tu l'apprécies, c'est comme si Sylvain Texido s'en va à Argelès. Moi, de la façon dont je l'ai vu mouiller le maillot avec Palo, partir rien que sur le plan financier, je ne pensais pas que Pello quand même gagne 4 cacahuètes à...
Olivier, attends, là on parle de professionnel.
Voilà.
On parle de professionnel. Le garçon, le garçon, on va...
Donc le garçon ne doit pas être redevable à tout ce que les Dragons
non.
lui ont apporté.
Non. Attends, quand la carrière est finie, c'est fini. Ils se sont impliqués pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Derrière, il y a une reconversion qui n'est pas évidente. Dimitri, il n'est pas australien, il est français, hein, en plus. À un moment donné, quand t'es professionnel à 3 000, 4 000 euros par mois, et qu'on te propose, parce que Jaja, c'est ça, c'est 10 000, hein,
oui.
Net, hein, et qu'on te propose derrière, eh ben, si t'as la possibilité, en plus, il est jeune, Dim, de faire 4 ans, 5 ans à ces salaires-là, tu te mets à l'abri, tu prépares ta reconversion, et ça, on ne peut absolument pas en vouloir aux garçons. Après, Jean-Claude, moi, je suis d'accord avec toi sur l'économique. Mais un système, tout à fait. Hein. Mais après, c'est comme ça. C'est la logique.
Je suis pas d'accord. Moi, quand tu es joueur français, que tu partes Dragon quand tu es troisième, quatrième, que l'équipe marche, là, ça me fait l'impression que le garçon, il quitte le navire, même s'il a été très bon à tous les matchs, il quitte le navire quand ça va pas.
Non, moi, Olivier, je connais pas les sommes, hein, je connais celle de Jaja parce que j'ai un pote qui est préparateur physique à Castres, donc je sais. À un moment donné, c'est un joueur, moi je suis d'accord, hein, c'est un joueur clé dans le système. Y a des joueurs australiens qui touchent ces sommes-là. Et tu l'alignes, c'est tout. Si tu veux le garder, tu l'alignes. Il le mérite. Il est dans les meilleurs joueurs de l'équipe.
Qu'est-ce que tu fais si l'année prochaine il va à Montpellier, Pello, il se casse la gueule à Montpellier, il va revenir au Dragon, il te tape à la porte l'année prochaine pour revenir.
Ça, c'est le système. Attends, vous répondez tous à côté des questions. Mais en parallèle, il est dans les deux ou trois meilleurs joueurs de l'équipe. Est-ce qu'il est dans les deux ou trois meilleurs salaires? Je sais pas, moi. Mais à mon avis, non, c'est tout. Donc il part. C'est logique.
Olivier,
c'est le système professionnel.
Olivier réagit comme un fan de l'équipe.
Oui, mais on est dans un système professionnel. Là, Olivier, moi, je suis d'accord sur toi. Si Lionel Texido s'en va de Palo, ça fera quelque chose parce qu'on est des amateurs et on indemnise un certain niveau, mais pas plus haut parce qu'on ne peut pas. Mais dans le monde professionnel, il ne faut pas reprocher aux joueurs de partir pour une meilleure situation et une meilleure offre. C'est comme quelqu'un qui est dans une entreprise, qu'on lui propose une opportunité commerciale, puisque c'est leur travail. Par contre, ce que l'on peut reprocher, c'est à certaines personnes qui dirigent cette entreprise ou qui dirigent le sportif, peut-être de ne pas réussir et de faire des mauvais choix. C'est le seul truc qu'on peut, puisqu'ils sont payés et c'est leur travail pour faire les bons choix et faire leur bon boulot. Après, les joueurs, comme tout le monde, ils sont... c'est leur travail.
Il faut les en garder aussi. Voilà. Un joueur n'est pas tenu de rester dans un club à vitam aeternam. À un moment donné, il a une proposition, c'est humain de partir, de découvrir d'autres horizons. Bon, mais c'est, à 25 ans, c'est plus que légitime, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est une culture professionnelle qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas acquise, parce qu'on n'a pas été nourri forcément à ça. mais les joueurs professionnels, en règle générale, signent des contrats de très, très courts, 2 ans, 3 ans, renouvelables. Et vous avez des joueurs qui sont passés à Wigan, ils vont à Saint-Hélène, ils vont à Leeds. Bon, ils ont fait 5, voire 3. C'est très rare d'ailleurs, quand un joueur reste 10 ans dans un club, on fait une grande cérémonie, on fait une fête pour lui, le club se mobilise parce que c'est très rare, enfin c'est très rare, ça arrive qu'un joueur reste 10 ans dans un club. Nous on est dans une culture de club où on ne pouvait jamais imaginer à une certaine époque que si on sortait de l'école de rugby, on ne finirait pas jusqu'à ce qu'on ne puisse plus courir dans le même club. Bon voilà, c'était...
Mais il y a des cas, oui, tu as un gars comme Darren O'Keefe. Le 15 lui proposait le double de son salaire actuellement. Le double, c'est pas peu.
Maintenant, bon.
Thurston, oui, c'est pareil.
Non, mais maintenant,
Rob Perrault, c'est pareil. Tous non, les meilleurs trésistes ont
Olivier,
eu des propositions.
On est quand même dans les agissements de l'intersaison classique. Bon, moi j'entends que son fils va à l'USAP, j'entends que je va à l'USAP aussi chez les jeunes. Chaque année c'est pareil, chaque année la rubrique de l'intersaison pour certaines catégories, elle est nourrie de transferts, et puis finalement après en septembre tout rentre dans l'ordre. Seulement tout ça s'est exacerbé à l'heure actuelle par les contre-performances, enfin par les résultats des Dragons, qui font que tout le monde est hypersensible aux mêmes choses. L'année dernière ou dans les autres saisons, exactement à la même époque, tous les joueurs étaient en train de commencer à renégocier leur contrat pour cette année. Bon, ça se faisait un peu plus discrètement parce que l'équipe marchait mieux, et je reste convaincu que si les Dragons qui misent tout, parce que bon, on parle de gagner perdu, bon, tout le monde sait, je crois, que ça va se jouer le 7 août sur un match qui va être oui ou non on va aller à Wembley. Si on va à Wembley, eh ben, ma foi, ce qui est tout à fait possible et ce qu'il faut souhaiter, ben, à partir de là la saison sera sauvée pour les Dragons. Ça ne résoudra rien au problème de fond que nous sommes en train de débattre, mais la saison sera sauvée et c'est possible. Donc on est déjà dans la tête des dirigeants et de Bernard, je suis quasiment persuadé, dans la construction de l'équipe de la saison prochaine. Donc tout ce qui se passe maintenant, à mon avis, c'est, je ne dis pas que ce n'est pas très important, mais c'est quand même dans la logique des choses, puisqu'on sait très bien qu'on va tout mettre, on va tout mettre tout ce qu'on peut, on va racler tout ce qu'on peut pour le 7 août, et après on verra bien, on est déjà dans la saison prochaine. Quoi. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça le bon.
C'est une forme aussi de reconnaissance quand même, quand un joueur tourne à plein régime, comme c'est le cas de Dimitri Pelo, s'il propose un salaire doublé, comme a priori c'est ce qu'on entend. Alors voilà, on rentre dans un système aussi qui est quand même délicat. Alors on forme des joueurs qui sont performants et à un moment donné, ben, l'argent fait le reste. Alors,
juste retour des choses.
Est-ce qu'on fait bien de former finalement ?
Juste retour des choses. Pendant des années, on n'a pas formé. On s'est servi de la formation des 15 pour avoir l'embellie dans les années 50 et 60. Aujourd'hui, l'argent est passé de l'autre côté, comme le dit Jean-Claude. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu la culture de formation. Culture de formation, on ne l'a pas. Alors, il faudrait arriver à l'acquérir.
Et puis, il y a une réalité sportive, c'est que le trésiste, surtout derrière, apporte une valeur ajoutée quand même. À la ligne de trois quarts.
C'est indéniable.
On le voit de plus en plus.
Non, mais c'est...
Écoutez, ouais, oui, mais quand on regarde Sidney Williams, il y a des clubs qui jouent
pour le mettre à l'aile avec un demi d'ouverture.
Écoutez-moi, il y a des clubs qui ont des entraîneurs qui regardent les cassettes et qui regardent le rugby à 13. Je pense qu'ils sont assez compétents pour recruter un joueur dont les qualités correspondent.
Il
n'a
pas fait une mauvaise saison, on lui a pas donné le ballon. Ils ont foutu un poste qui n'est pas le sien.
Moi, je suis en train de dire qu'il y a des clubs qui ont des entraîneurs et des dirigeants qui regardent le rugby à 13 dans les écrans, dans les télés étrangères, qui vont à l'étranger, qui s'imprègnent du 13. Et je pense que s'ils viennent chercher des joueurs chez nous, c'est parce qu'ils leur trouvent des qualités qui peut-être correspondent à leur rugby. Mais c'est des coups de poker et c'est des coups de jeu. Parce que moi, je dis que prendre certains joueurs, la réussite n'est pas assurée à tous les coups. On joue, on gagne, c'est comme ça. Parce qu'il faut pas, les exemples des trésistes, c'est pas 3 ou 4 trésistes qui sont partis, qui font le printemps. On a vu des joueurs, je ne citerai pas les noms, dont le plus fameux Gasnier qui est venu à Paris, ça a été le plus gros fiasco.
C'est pas vrai, il est deuxième marqueur du top 14.
Mais vous rigolez ou quoi? Donner 35 000 euros à
celui-là,
c'est un fiasco.
Non, mais attends,
les meilleurs marqueurs du top 14,
les qualités. Non, attends, il est
j'ai rendez-moi au Stade français contre Biarritz. J'ai pris Gasnier. Il a touché deux ballons.
Oui, mais attends,
c'est un fiasco. Donner 35 000 euros un jour comme ça. D'ailleurs, il le dit très bien et vous pouvez le savoir. Comme l'a dit Greg Gower qui fait venir tous les Australiens en France, c'est la Riviera en France. Easy game, easy money. Je vais jouer au golf à Marrakech. Je vais jouer au golf à Monaco. Et je vais jouer. C'est ce sport qui veut ça. Il faut être clair. Et c'est des garçons qu'on a investi un joueur comme Sonny Bill Williams. Il aurait pu réussir, il aurait pu très bien se louper. Et maintenant, on en fait une star, alors que c'était une star chez nous, et que ça a été un joueur comme lui, il est parti. Vous suivez comme moi le rugby à 13 australien. Il y a un jeune, Jamal Idriss, qui le remplace, et on ne parle plus de Sonny Bill Williams.
Il y en a plein. Mais c'est tout.
Mais ici, on veut faire venir, la semaine dernière encore, il y a un club comme Toulon qui a essayé de faire revenir le Benji Marshall. Vous le regardez, Benji Marshall ne viendra pas à Toulon, il est signé. Mais pourquoi
parce qu'ils ont relevé le salary cap en Australie.
C'est pas ça. Il y a des joueurs.
Thurston, il a demandé 900 000 euros saison à Biarritz.
Mais il y a des joueurs. Il a raison. Parce que quand Gower dit qu'il vient easy game, easy money. Mais ils ont tous raison de venir. Comme on en est dans ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans une logique économique. Voilà. Parce que les mecs qui viennent, ils se font chier et après ils reviennent tous à 13. Où ils vont à la mine de nouveau et où ils reprennent des salaires. Vous avez la preuve, Gasnier, cette semaine, va signer à Saint-Georges et il dit qu'il revit. Alors moi, quand un joueur qui a fait 2 ans, qui a pris 35 000 euros par mois, vous savez ce que c'est, 35 000 euros par mois, eh ben, qui se fait chier, mais il les prend, et il revient chez lui, il va à la mine, il va aller à la mine la semaine prochaine pour bien moins, et qui dit qu'il revit sur la presse, sur le Sydney Morning Herald, eh ben arrêtons. Je pense que je suis l'argent et roi.
C'est un joueur qui était mal utilisé.
Heureusement qu'il revient pas mort.
Attends, il peut pas revenir. Je te renvoie le contre-exemple. Il y a Sonny Bill Williams qui a signé en Super 14 au
Crusaders.
C'est important. Non, il a signé avec la fédération. Il signe pour un salaire 2 fois inférieur à ce que lui donnait Toulon. Pourquoi ? Parce qu'il veut être All Black et parce que le rugby à 15 a des compétitions internationales lisibles, une Coupe du Monde et une aura internationale crédible. Donc, il faut prendre les problèmes, il faut les prendre dans leur globalité. Il n'y a pas que l'argent à un moment donné. Et pourtant, s'il y a Mercedes, c'est Sonny Bill quand même.
Oui, on va parler.
Et son agent surtout. Et son agent.
On s'éloigne un peu du sujet là. On va reprendre le sujet Dragon. Alain Forge, hier soir, tu étais donc à Castleford avec les Roosters et tu as pu donc voir le match entre les Dragons et les Tigers. Qu'est-ce que ça a donné ?
Eh bien, ça donne un sentiment de frustration parce que c'est un match qui était vraiment à la portée des Dragons, celui-là, par rapport à tous ceux que j'ai vus à Brutus. Et surtout qu'il y a eu beaucoup d'erreurs des Tigres de Castleford. Mais hélas, nous, on est toujours pareil. Manque de soutien, par des fautes de main. On essaie tout fait, on est à 10 mètres, 2 joueurs tout seuls. En avant.
Mais le résultat, l'entraîneur est content de nouveau sur la presse, alors tout va bien.
Il est content. C'est notre Domenech à nous, en fait. Quoi.
Voilà. Par contre, combien de défaites
alors, 15, sur 17 rencontres,
15 défaites, et il est toujours entraîneur. Moi, qu'on m'explique ça. Moi, un entraîneur à Palo, je perds 15 matchs de rang, je le vire.
Ça paraît évident.
Côté positif, il y a eu une amélioration dans le jeu. On a libéré des ballons. Pour une fois, on marque un magnifique essai avec Vaccari complètement à gauche sur une attaque qui est partie de droite et de gauche avec des libérations sur un pas, ce que j'avais jamais vu depuis le début de la saison. Et je voudrais signaler que Maguire a fait un grand match comme organisateur. Et le petit Barthaud, on lui a reproché de s'être fait prendre dans l'embut 2 fois, de ne pas être sorti, mais il n'a pas manqué un ballon. C'est son meilleur match depuis que je le vois jouer en Super League.
Est-ce que tu verras qu'il a fait son meilleur match, mais il sera pas dans le groupe samedi, puisque Greenshield va rentrer.
Non, il ne sera pas.
Donc, mis à part le mettre à la mêlée, mais je ne sais pas si Thomas va rentrer.
Alors, on s'est aperçu depuis 3 matchs, là, depuis que Brent Sherwin est rentré en poste de demi-mêlée, que derrière, on avait un volume de jeu plus intéressant. On arrivait enfin à aligner quelques passes et puis à créer un peu de trouble dans la défense adverse. Est-ce que c'est votre avis ?
Un petit peu. C'est-à-dire que Sherwin, surtout, il use de son pied. Donc, il en a peut-être un peu abusé. hier, d'après certains qui ont vu le match, il en a abusé. Seulement, il y a eu quand même quelques situations dangereuses, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on attaque, on a toujours ce même rythme monocorde qui nous mène à rien du tout derrière, hein, franchement.
Quand tu as des centres qui vont à deux à l'heure, tu peux pas jouer vite. Hein,
c'est gentil.
Qui ne sont pas des centres.
Qui ne sont pas des centres, exactement.
Il y a eu le même problème en équipe avec de France.
Quand tu fais une équipe en mettant des boules dans un truc comme l'auto, et que tu tournes, et que tu sors le numéro, et que tu fais jouer les gars. C'est un peu comme ça, moi, je crois qu'il fait. Parce que des fois, je me demande, quand je vois les joueurs au poste qui jouent avec les Dragons, alors que tu vois le petit Gigot qui est ouverture de formation, il va à Warrington qui est en pleine bourre, il te le met à l'honneur, il se prend deux rentrons par Morlaix, KO deux fois en 20 minutes, et qui te le fait rentrer à 10 minutes de la fin encore au talonneur.
Je suis d'accord, c'est un assassinat.
Je pensais qu'il veut l'assassiner.
C'est un assassinat, t'as l'honneur, tu dois défendre au milieu, dans l'axe du terrain, et tu prends les gros, non,
ça, c'est 80 kilos. Là,
il faut arrêter.
C'est un scandale.
Quand il y a des blessés, je veux bien qu'un ou deux postes que les joueurs.
Il peut être malin comme Maïgor, il défend pas dans l'axe lui.
Et puis après. Et puis rappelez-vous les premières.
Quand il est 9, tu vas le voir samedi, il ne sera pas dans l'axe en train de défendre, il sera sur le côté.
Bon, et puis rappelez-vous les premières 13e heure qu'on avait fait, où on parlait de cette année que si la saison était perdue, de faire jouer les joueurs français. Perdu pour perdu, on a dit essayons, donnons du temps de jeu à ces joueurs français, même s'ils sont un peu jeunes, pour les former.
Si tu enchaînes les humiliations.
Mais les humiliations, mais on les enchaîne en ce moment. Hein. Ah non
tu une question pas. Allez, sur le match d'hier soir.
Oui.
Il y a eu une grande demi-ouverture.
Hier soir.
Pour les Dragons.
C'était qui? C'était ça.
J'avais ça.
Non, mais je ne vais pas revenir parce que derrière, j'ai expliqué que ça n'a pas été bon. Voilà.
Selon toi, c'est quand même un match qui pouvait être gagné.
Ah oui, 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 parce que Castelfort
avait beaucoup. Ouais. Parce que c'est ça.
Il y a une dynamique. Ils ont joué plus rapide, tu vois, plus vite.
Ouais, ça s'améliore. Ouais.
Ça s'améliore.
Non, mais moi, je pense que tout le monde a l'esprit au 7 août, hein, ouais. Et que l'équipe sera prête le 7 août.
Mais moi, j'allais parler à Laurent Frécinous, il prépare ça. Alors Louis, ça veut dire que tous ces matchs, c'est des matchs de préparation, là. On est en préparation.
Oui, mais moi je pense que ça ne sert plus à rien de s'entêter, de savoir si on va finir dernier ou avant-dernier. Dans le pire des cas, on peut finir quoi? Deux places de plus, même, je ne sais pas, je ne vais pas regarder en détail, mais à mon avis, on peut sauver.
On est collé à 4 points.
Non, les Dragons peuvent sauver la saison, et moi je pense que ça va se jouer le 7 août, et les supporters peuvent être rassurés, parce que les Dragons, ce jour-là, ils vont donner. Je pense que d'ailleurs, Warrington ne s'est pas trompé, parce que Tony Smith l'a dit de suite. Hein. Il a dit moi ça me plaît pas ce tirage, parce que nous on a d'autres objectifs, c'est-à-dire garder le haut de tableau, alors que les Dragons n'ont plus que celui-là. Ouais. Donc ça dit ce que ça veut dire.
Et à noter qu'une semaine avant,
ils vont à Saint-Hélène.
Donc il y a sûrement la première ou la deuxième place qui sera en jeu, voire la troisième, à savoir s'ils recevront le play-off à la maison. Donc ça risque d'être important. Mais nous, on va à Bradford. Hein.
Bon, après, oui, mais bon, on peut se perdre, ça change rien. Perdre en conjecture. Il faut rentrer les blessés, il faut pas péter d'autres joueurs majeurs. Enfin bon, c'est clair. Moi, je suis complètement d'accord avec Louis. On y verra plus clair. Début août.
Guy, ton sentiment sur ces compositions d'équipe de Dragons, est-ce qu'il y a des choses qui te choquent, des secondes lignes au centre,
C'est très choquant même. Hein, je veux dire, je suis pas le seul là. C'est pas rien que de cette année. Hein. Déjà l'année dernière, ça m'avait choqué. Je crois que l'année dernière, ce qui nous sauve, c'est qu'on fait une fin de saison magnifique. Hein. Bon, je pense que c'est ce qui nous sauve. Hein. Et bon. Alors là-dessus, on s'est contenté parce que peut-être qu'il aurait fallu réagir l'an passé. Hein, parce que, pour tous ceux qui sont venus au stade, je pense que autant on avait pris du plaisir il y a 3 ans, autant l'année dernière on n'a pas pris de plaisir à avoir évolué les Dragons. Hein, hormis les phases finales.
Moi, je suis d'accord. Hein, on a l'embellie sur les phases finales, mais attention, on fait des super playoffs sur des individualités qui sont arrivées en forme au bon moment. Et
c'est sûr.
Je suis d'accord sur le jeu.
Non, mais vous y étiez à Lille.
On l'a vu le match.
Non, mais vous étiez à Lille.
Non, mais on l'a vu sur Grand Écran.
Vous avez vu les individualités. Je pense que c'est faux. C'est le collectif.
Attends, tu rigoles ou quoi?
Parce que les individualités et une erreur d'entraîneur vous a fait perdre le.
Attends, tu as Mog. Attends, si j'ai bonne mémoire.
Moi, je parle du collectif qu'il y a eu. Il y a eu une révolte générale de toute l'équipe. Hein, et justement, il y a eu une erreur de coaching
à Leeds avant la mi-temps qui nous fait perdre, qui fait faire le break et qui nous fait perdre la feuille. Alors si vous en rappelez pas, moi je vous
non mais, finale, mais voilà. ça reste des individualités. Attends, Tamo qui traverse, Tamo comme on se serait cru à l'école de rugby, il contourne en vitesse toute la défense, il décale, il fait marquer quoi. Attends, c'est en Super League quoi. Je veux dire, bon, on a eu une ambée, mais je suis d'accord avec Guy. C'est l'arbre des playoffs et la qualité des individualités qui sont arrivées en forme au bon moment l'année dernière a caché la forêt de la pauvreté technico-tactique de l'équipe sur toute la saison.
On est d'accord. Oui. On est tous d'accord là-dessus. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on est dans la logique d'essayer de sauver une saison sur un match, mais déjà on est dans la construction des dragons futurs. Exactement. Voilà, c'est tout. Moi, je crois que ça sert pas trop à grand chose de savoir qui va jouer là ou là. Je pense que bon, on laisse faire la chose parce qu'on a un objectif très précis et très ponctuel. Mais quand même, la préoccupation majeure, je vois la table ovale, les réunions importantes qu'il y a, les contacts avec l'entraîneur, les grandes manœuvres sont enclenchées pour avoir une équipe prête au départ de la saison prochaine. Et je crois qu'il faut, et c'est tout à fait normal, je crois que c'est plus la peine de s'entêter à vouloir discuter de la saison actuelle. Bon, elle est
morte.
Voilà.
Bon, Guy, tu as...
pas tout... Non, elle n'est pas morte.
Oui.
Le championnat. Le championnat.
Une question, Guy Campoursi, tu entraînes le Barcarès, on te donne une baguette magique, on te dit voilà, demain tu es coach. En Super League des Dragons catalans, qu'est-ce que tu amènes comme modification au niveau de la compo?
Il y a beaucoup de choses à amener, hein, je pense. Hein. C'est un gros chantier, là, hein, je crois. Déjà, moi, le système de jeu préconisé, c'est-à-dire ce système où c'est qu'on va se péter dans le gueule toute l'après-midi, hein, bon, ça peut être beau en Australie, mais chez nous, je pense qu'on n'a pas les joueurs pour le faire.
Hein. Ni la culture.
Ni la culture. Hein, voilà, en plus. Hein.
Vous avez vu des matchs NRL cette année, là?
Oui,
ça repasse, ça repasse sur Sky, c'est un truc de malade. Ça va à 10 000, ça sort les ballons dans tous les sens, ça attaque dans les 20 mètres, c'est hallucinant. Hein.
Mais avec des artistes.
Non, mais on est d'accord.
Avec des joueurs qui éclatent parce que des artistes.
Mais tu les as, mais attends, c'est une constante dans tous les sports, tu les as les joueurs.
Nous, on les a pas.
Même au Dragon, tu les as pour jouer.
Je suis pas d'accord, Jean-Claude. Palo Montpellier, ça a écarté les ballons dans les 20 mètres.
Non, mais tu.
Si on enlève la dimension physique, si la technique de chaque joueur, les ballons, ils sont partis à l'aile.
Si tu n'attaques jamais, tu ne t'es pas attaqué. C'est-à-dire que si tu t'enfermes, comme il dit Guy, tu t'enfermes dans un rugby coffre-fort, après tu ne sais plus jouer. Hein.
Alors, Guy, qu'est-ce que tu préconiserais, toi, hein. Tu changerais quoi dans cette équipe, dis-moi?
Je te dis, il y a beaucoup de choses, mais enfin, quoi que maintenant, ils ont rentré un nouveau demi. Là, hein. Bon, depuis qu'ils ont rentré, d'abord, on n'a que le voir, sur les trois derniers matchs, apparemment, c'est un peu mieux. Hein.
C'est harmonieux,
mais bon. Pour moi, hein, la grosse erreur qu'il y a eu au début de saison, on a laissé partir le joueur qui avait masqué un peu toutes les imperfections l'année dernière, hein, c'était Bird, hein, puisque bon, c'est sûr qu'il n'avait pas le choix, mais bon, au lieu d'aller peut-être rechercher un centre seconde ligne, parce que je ne sais pas si c'est même pas ça, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement,
je ne sais pas ce qu'il est exactement. Ouais,
bon, on avait Bell déjà, on a renforcé une aile. Une aile de côté, quand on les met tous les deux à côté, on est tranquille, on ne marquera pas d'essai, on en prendra plus tôt. Hein. Je serais allé chercher déjà au départ, hein, je pense que, comme disait Jean-Claude, au départ, il y a eu un gros. Au niveau du recrutement, on est passé complètement à côté. Hein.
Je rejoins ce que tu dis. On a échangé ça contre Jason Drailes, qui est aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore un des meilleurs piliers de NRL. Au niveau de l'échange, là, parce que ça a été un échange hein, entre deux joueurs. Je pense qu'on n'a pas été bon, mais du tout. Hein. Pardon ? Raïlès, il a prouvé au playoff. Il a trouvé un club, oui.
On ne va pas glisser sur un sujet.
Il a reçu le premier match contre Dorcy à Perpignan. Ça l'a tué la carrière, c'est tout. Voilà, c'est tout.
On ne va pas glisser.
Alors, pour être info.
On ne va pas glisser sur un sujet.
Pour être info, de source sûre.
Moi, je trouve bizarre. Attends, Olivier, moi, je trouve bizarre quand même le niveau de performance. J'ai vu 5 ou 6 matchs de NRL, c'est hallucinant. Et je trouve quand même très bizarre le baisse de niveau de performance des joueurs australiens quand ils arrivent ici. Et ça n'a pas à voir avec le soleil, la mer, se démobiliser. Hein. Je vous invite, j'ai encore le DVD, je vous invite à regarder sa musculature et sa densité physique quand il fait la finale NRL et comment il est maintenant. Alors je me pose sérieuses questions.
Klaus Porkovic m'a posé la question hier à IE de me demander de regarder les carrures de Warrington l'année dernière et cette année. Je sais pas, il me dit que les joueurs ont pris entre 5 et 10 kilos et ils les trouvent tous monstrueux d'une année sur l'autre. Donc le travail intersaison, je veux bien.
Et les Australiens, ils les perdent.
Et dans la zone zone,
quand il arrive, au Dragon, c'est pareil dans la zone zone.
Il a perdu 5 kilos.
Riles, j'ai vu les. Tu me dis quand il se fait. Mais après, on a regardé 4 ou 5 matchs avec Guy Delaunay, qui quand même connaît un peu le rugby à 13. C'est vrai que quand il s'est fait sécher sur le premier match, il a mis quelques matchs à revenir. Il me disait, mais le type, il avance pas, il sait pas jouer au rugby, quoi. D'où ils l'ont trouvé, quoi. Et puis bon, après, il est revenu un peu, mais. Par rapport au niveau, qu'il avait en Australie et qu'il retrouve maintenant, moi je me pose des questions.
Non, mais les questions cette année pour les Dragons, je pense qu'il y a eu une erreur de casting.
Voilà.
À tous les niveaux, à tous les niveaux. Bon, celui qui fait le casting, c'est pas vous ni c'est pas moi. Bon, il y a des responsables, il y a des gens qui doivent assumer là-dessus. Mais moi, je le répète. Les joueurs, quand ils viennent ici, ils sont professionnels. Et ils doivent faire leur travail
tout à fait
comme des professionnels. Et c'est là-dessus où l'on doit insister. Et s'il y a des défauts, un entraîneur, il est payé pour entraîner et pour faire gagner une équipe. Il n'y a pas de résultat. Il est coupable ou il n'est pas coupable. Et c'est les joueurs, c'est pareil. Ils sont payés pour jouer et faire leur travail qu'on leur demande. Et je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être des valeurs à remettre en place. Il n'y a pas des valeurs de cœur, puisque le cœur, ça ne compte pas. Il n'y a que l'argent pour moi qui est dans ce monde. Et comme il dit Pierre, les Australiens qui viennent en France, de toute façon, vous allez avoir un gros déficit d'Australiens et de Néo-Zélandais, parce que vu moi, en tant que banquier, la parité du dollar australien et de l'euro à l'heure actuelle, avant, c'était le double. Maintenant, ça a bien chuté. Vous verrez qu'il en viendra moins. Ou alors il faudra donner beaucoup plus, c'est déjà une réalité. Les Australiens qui viennent en France, c'est des professionnels, ils viennent pour faire leur boulot. Et le seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est que si on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Et celui qui leur dit d'aller à droite, c'est pas Pierre Vergès ni Jean-Marie Bousquet, c'est quelqu'un qui leur dit d'aller à droite. S'il leur dit, il y a quelqu'un qui dirige tout ça, et moi je n'en reviendrai pas là-dessus, on s'est trompé, et il faut assurer.
Voilà. Alors à noter les deux petites infos, c'est que Dallas Johnson, qui a encore 2 ans de contrat, serait laissé libre par le club s'il désire rentrer en Australie. Donc erreur de casting, puisqu'on savait qu'à Melbourne, on lui demandait qu'une chose, défendre dans l'axe, ce qui faisait très bien puisqu'il faisait 60 plaquages par match. Mais après, forcément, quand il donnait 2 ou 3 ballons, il y a des avions comme il avait des avions qui arrivaient autour de lui, qui n'a pas forcément au Dragon. Donc Dallas, s'il le souhaite, pourrait rentrer chez lui. Et ça a été confirmé que les Dragons sont sur Fufi Moi Moi, puisqu'il voudrait faire signer un monstre devant et un gros centre derrière, qui est 2 patrons, 1 par ligne. Bon, Fufu Moi Moi, c'est apparemment pas si cher que ça, mais c'est compliqué, parce que Parramatta veut absolument le garder, quoi. Voilà 2 petites infos.
Non, mais on rebondit sur ce qu'a dit Jean-Claude, qui connaît le rugby, il a raison, quoi. Je veux dire, on en a parlé la dernière fois, j'ai posé la question à Jérôme Guisset, ils ont pas pu répondre. L'an dernier, tu faisais jouer le 3e ligne comme un 3e pilier, et cette année, tu recrutes un 3e ligne qui joue un peu comme un 2e ouvreur. Quoi. Alors, est-ce que le système de jeu a changé ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Mais là c'est clair. Quoi. Je veux dire, c'est...
Louis Bonnery qui sourit à côté.
Non, mais moi, c'est pas. Il y a rien de risible dans tout ce qui se dit, parce que bon, on parle quand même d'individus qui sont quand même des sportifs. Mais ce que moi je retiendrai de tout ça, c'est que quand même un joueur ne peut s'exprimer que s'il est quand même dans une bonne organisation collective. Or, ce qui fait défaut visiblement depuis 2 ans, en fait, depuis la saison dernière, cette saison au Dragon, c'est une véritable organisation collective du jeu, où chaque joueur est à sa place, trouve sa place et se sent bien. Donc ça crée une dynamique. Donc cette dynamique, elle n'existe pas, parce que tout le monde la ressent. Le public, les joueurs, à la télévision, c'est pareil. C'est quand même plus compliqué à commenter une équipe qui n'a pas d'enthousiasme qu'une équipe qui, même si elle fait des erreurs, est très enthousiaste. Et c'est ça qui a disparu. Et le public ne s'y trompe pas, le public ne vibre plus, donc on a besoin de rugby peut-être moins académique, moins rigoureux, mais un rugby d'envie, un rugby d'enthousiasme, de joueurs qui s'encouragent, qui se... Bon, voilà, c'est ça. Voilà.
Est-ce que vous pensez qu'on a, voilà, on risque de retrouver ça samedi?
Moi, je pense que ponctuellement, ça peut arriver. Et les Catalans, enfin, et les Dragons catalans nous montreront que cette équipe, c'est pas vrai. Les joueurs, ils sont pas jetés tous, ils sont pas jetés aux orties, parce que quand même, c'est ces mêmes joueurs qui, je pense à son fils par exemple, et il y a 4 ans, il a débuté en Super League, il avait 4 ans de moins, il avait moins d'expérience, mais il était là. Bon, et il était là, et tout le monde était content. Donc,
il faut pouvoir jouer, il faut avoir les moyens de jouer. Aussi,
hein. Non, mais on a des exemples quand même des joueurs comme Castille, tout ça. On les a vus grandir à l'intérieur du club. Et aujourd'hui, quand on a vu la mauvaise humeur finalement de Castille parce qu'on le sortait, c'est significatif qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'enthousiasme. Et l'enthousiasme, on sait que l'aspect psychologique dans le haut niveau, ça compte. Et je pense que c'est ce. Voilà, la dynamique de groupe n'est pas bonne à l'heure actuelle au sein des Dragons.
On en revient à la vie de groupe qu'on avait parlé, c'était une péripétie, mais que les joueurs veuillent la musique, c'est tout con, dans une salle de muscu, qu'on leur interdit de mettre la musique dans une salle de muscu. Wow, pousser de la fonte, c'est assez chiant comme ça. Si les joueurs le veulent, que ça leur fait plaisir et qu'ils sont mieux. Oh, non, mais ça fait partie de la vie de groupe.
Non, mais bon, moi, je pense que tout ça, c'est. Ouais. C'est. Oui, non, mais c'est pas là-dessus qu'on gagne comme perd un match. Non. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi d'affirmer des choses. Que quand on voit les Australiens, ils arrivent avec des Walkman dans les vestiaires, ouais, ils se déshabillent, ils se chauffent avec la musique. Les Néo-Zélandais, ils mettent des glacières avec des bières. Ah, il faut arrêter. On le voit à la Coupe du Monde de football. Chaque équipe a sa manière de se préparer. Elle n'est pas plus stupide les unes que les autres. Les uns, c'est hyper concentré. Les autres, c'est la joie. C'est la proximité avec les supporters. Là, il n'y a plus rien. Au Dragon, il n'y a plus rien. Bon, que ce soit, on ne sait rien, quoi. C'est dommage.
C'est pour
dommage
ça que,
parce que le public est amoureux de cette équipe.
Et c'est pour ça qu'à partir de Ménès, il y avait des gens un peu intelligents qui commandent. Les derniers matchs qui restent, puisque le championnat, comme tout le monde le dit, est râpé, il faudrait peut-être produire quelque chose, libérer quelque chose. Dire aux joueurs de jouer leur partition un peu libéré et faire penser aux gens qui ont payé, penser aux gens qui travaillent derrière et faire se libérer. Pas faire un jeu négatif que l'on voit à l'heure actuelle, comme l'a dit Pierre, du rentre-dedans, et avec des hommes qui ne sont pas à leur place, parce que moi, en tant que président et en tant qu'ancien joueur, je vois des choses qui me mettent hors de moi. Quand on fait venir un centre et qu'on le fait jouer seconde ligne, ou qu'on fait venir un pilier et on le fait jouer troisième ligne, ça, pour moi, c'est une aberration. Et ensuite, voir toute cette hémorragie qu'il y a de départ, ce mal-être que l'on sent, puisque les joueurs, quand ils sont heureux, l'an dernier, en fin de saison, on a vu un groupe heureux, parce que moi, je maintiens dessus, un groupe heureux, un groupe qui avait envie de faire quelque chose et qui est presque arrivé avec peut-être, oui, deux superstars, dont une exceptionnelle, mais cette année, elle n'y est pas. Il aurait fallu s'apercevoir, les gens qui avaient les mêmes staffs, que cette personne cachait peut-être beaucoup de choses. Il aurait fallu peut-être s'en apercevoir l'an dernier au mois d'octobre. Et je pense qu'il faut relancer tout ça, que les gens se fassent plaisir, et les joueurs aussi.
Un dernier petit mot avant de conclure. Samedi, c'est Wakefield qui a pris une rousse dernièrement à domicile face à Saint-Hélène. Est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité de pouvoir enfin récolter une troisième victoire?
Il n'y a plus de pression, on gagne.
Moi, je suis encore un peu sceptique parce que Wakefield est 9e, je crois. Et quand vous savez qu'un sport, quand vous allez chez le dernier, tout le monde y vient pour gagner. Ils ont rentré à nouveau quelques joueurs. Il y en a des joueurs qui s'en vont à la fin de la saison.
Trop positif.
Et je suis positif, mais je sais que ce sera très difficile encore une fois. Il faut s'attendre à un match serré.
Il n'y en a aucun de match facile, on le sait.
Alain Forge a l'air quand même assez optimiste de par le match que tu as vu, je suppose. Ou alors on essaie de se rassurer, quoi.
Non, il y avait John Kier qui est venu espionner puisqu'il était dans les tribunes à Castleford hier soir. Donc ça veut dire qu'ils prennent le match au sérieux.
Non, mais... Ou alors il était là pour l'année prochaine. Hein.
Moi je pense que si c'est le futur entraîneur, il nous laissera gagner peut-être. Donc avant de conclure, Pierre, tu t'occupes cet été donc du camp des Dragons et il y a des rendez-vous importants.
Ouais, donc tu m'as piqué les dates, donc tu vas être obligé de les dire, hein, puisqu'il paraît que ma voix.
Alors, le camp des Dragons.
Dans le camp des Dragons, c'est des stages été, donc où on des stages enfants où les joueurs viennent nous voir. On a mis en place des contenus pédagogiques pour faire aimer le rugby à 13 aux enfants. Donc c'est des séances de 2h30 où ils alternent des exercices et des matchs. Et avec la présence des joueurs, ils sont invités au stade et présentés au public. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est une fantastique expérience. Bon, on s'éclate tous, autant les enfants que l'encadrement technique. Et voilà, et c'est un vrai bonheur. Alors les dates, il y aura une session du 12 au 16 juillet, une autre du 19 au 23 juillet, et la dernière du 9 au 13 août. Voilà, c'est à Grand Stade de Saint-Cyprien.
D'accord. Samedi donc, pour rappel, il y a donc les Roosters qui jouent contre Wakefield, 14h30, c'est ça, hein, à Gilbert Boutus. Donc venez nombreux parce que c'est l'avenir, il passe par là.
Puisqu'on est à l'heure des informations.
À Toulouse.
Moi, Toulouse. Samedi aussi, il y a le repas des anciens du 13 catalan à Canet. Et il y a beaucoup d'anciens qui se sont pas inscrits. Et pour les organisateurs, c'est pas facile. Pour Bernard, des gens qui travaillent à ça. Alors, tous les anciens du 13 catalan qui viendront samedi au repas à Canet, qui se manifestent le plus rapidement possible, parce que sinon, ils mangeront pas.
Et notez aussi sur vos et notez également sur vos calendriers que dimanche, une sardinade monstre est gratuite chez Serge Rose au Barcarès. Donc on sera tous présents. Merci Serge. Donc on appelle au peuple trésiste, venez nombreux. On va remercier, c'est une boutade bien sûr. On va remercier nos sponsors, donc Olivier, nos sponsors.
Oui, ce soir, on va remercier Jean-Marie et la Peña Saint-Cyp de nous avoir reçus à ce magnifique casino de Saint-Cyp. On va aller jouer à casino à Saint-Cyprien. Le petit resto, Aïe sur tête, qui bien sûr nous a demandé tiens, de venir animer une émission. Aïe, le compte sur nous. La maman Thibaut Margalet, le magasin Camomille, la Peña des Dragons de la Tête. Et puis j'oublie à Perpignan. L'entreprise, aide-moi.
C2A.
C2A, voilà, de Régis Ribert.
Qu'est-ce que tu veux pas sans moi, hein.
De Régis Ribert, heureusement que tu es là. Voilà, bonsoir à tous.
On se retrouve donc, si je ne me trompe pas, le 1er juillet prochain, avant la réception des Warriors au Wigan, c'est bien ça? Voilà. Donc merci à tous, messieurs, et puis rendez-vous donc dans 15 jours. À bientôt.
Au revoir.